Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. À Marseille, fusillade et guerre de territoire, un bilan très lourd avec au moins 3 morts et des blessés graves. Et au-delà des commentaires habituels, des coups de menton officiels, un spectre hante Marseille, un État qui ne serait que spectateur de la guerre des gangs. Alors l'État n'a-t-il pas déjà perdu cette bataille ou cette guerre des territoires ? La question est d'actualité avec ces images également à Nice datant du 24 mars avec des dealers munis d'armes, sans doute des armes lourdes dans le quartier des Moulins de la ville. Alors comme s'ils étaient, vous le voyez vous-même, en totale impunité, tranquillement. Ceux qui ne sont pas tranquilles, par contre, ce sont les habitants. Et pendant ce temps, Gérald Darmanin poursuit son offensive contre l'extrême gauche dans le journal du dimanche. Et puis hier, dans l'émission Le Grand Rendez-vous, le ministre de l'Intérieur n'y va pas. Deux mains mortes provoquant polémique et vive réaction. Et puis quand la gauche radicale tente de faire son nid dans les facultés, mais pas n'importe lesquelles, Assas, Dauphine et Lyon 3, pas forcément ou pas franchement connus pour être des bastions de gauche, alors des facultés à la réputation plutôt conservatrice qui basculent, quelle signification ? On va en parler, mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, Mickaël Dorian.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. L'euthanasie va-t-elle être possible en France ? Emmanuel Macron veut un projet de loi d'ici la fin de l'été. Élodie Huchard, bonjour. Vous êtes devant l'Élysée avec Antoine Durand. Alors que la Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour légaliser l'euthanasie, le chef de l'État entend bâtir ce qu'il appelle un modèle français de la fin de vie.
Oui, exactement. Le président de la République qui semble partager un certain nombre des constatations de cette convention citoyenne. Ils lui ont d'ailleurs remis le rapport de manière officielle. Et c'est d'abord le patron du Conseil économique et social qui s'est exprimé, expliquant que ce sujet touchait à l'intime, qu'il était possible de débattre des sujets qui divisent et qu'il ne voulait pas se substituer au travail législatif. Un point d'accord supplémentaire avec le président de la République. Il a remercié les 184 membres de leur travail sérieux, rigoureux et respectueux. Il parle d'une expérience unique qui doit servir de référence, d'un moyen d'apaiser aussi les tensions. Et puis deux annonces, vous le disiez, du président de la République. La première, c'est celle d'un plan décennal pour la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs, parce que comme la Convention citoyenne, il reconnaît qu'il y a une inégalité d'accès aux soins palliatifs. Et puis, vous le disiez, deuxième étape, une loi d'ici à la fin de l'été 2023. En revanche, le président de la République ne s'engage pas sur ce qu'il pourrait reprendre. Il dit ceci: je n'ai pas à vous promettre de reprendre telle ou telle proposition, elles suivront leur cours. Le président de la République qui a aussi indiqué qu'il souhaitait renouveler l'exercice de la Convention citoyenne et qu'il allait dans les prochaines semaines saisir le CESE sur d'autres sujets.
Merci Élodie Huchard en direct du palais de l'Élysée. L'ouverture du procès de l'attentat de la rue Copernic, 43 ans après cette attaque contre une synagogue à Paris, Hassan Diab est jugé devant la cour d'assises spéciale. Noémie Schulz, bonjour, vous suivez ce procès pour CNews et comme on s'y attendait, l'accusé est absent.
Oui, cette absence n'a pas plu à l'avocat général. Il a insisté sur la lâcheté de l'accusé et la grande infamie faite à la cour d'assises et aux victimes. L'avocat d'Hassan Diab, ce Libano-Canadien de 69 ans, a de son côté défendu une décision compréhensible, humainement respectable. Hassan Diab, on le rappelle, était reparti au Canada en 2018 après avoir été blanchi par la justice française, faute de preuves. Il venait alors de passer 3 ans en prison. Coup de théâtre en 2021, la cour d'appel de Paris décide de le renvoyer devant la cour d'assises, mais l'accusé qui clame son innocence a fait le choix de ne pas venir. Les victimes s'attendaient à ce box vide. Ce qui est important pour elles, c'est que ce procès se tienne. Corinne Adler célébrait sa bat mitzvah le soir de l'attaque et elle fait part de son soulagement de voir la justice enfin passer. On l'écoute.
Ça a été quand même un traumatisme et puis surtout aussi pour les 4 personnes qui sont décédées et les familles de ces personnes, et pour nous, pour nos familles, pour tout le monde, c'était voilà, pas un événement finalement très joyeux, alors que ça aurait dû l'être, puisque c'était la célébration de la bat mitzvah.
Corinne Adler, qui, comme les autres parties civiles qui le souhaitent, sera entendue comme témoin par la cour d'assises la semaine prochaine. Le procès, lui, doit durer 3 semaines. Le verdict est attendu le 21 avril.
Merci Noémie Schulz. Les images sont signées Charles Bagé pour CNews. La France va se doter d'un nouveau porte-avions nucléaire. Sa construction débutera entre fin 2025 et début 2026. Il aura pour vocation à terme de remplacer son prédécesseur, le Charles de Gaulle. Une bonne nouvelle pour notre consultant défense, le général Bruno Clermont.
On parle plutôt d'une entrée de ce porte-avions en service en 2038, avec des capacités très supérieures à celles du porte-avions Charles de Gaulle, plus de rafales, une trentaine d'avions de tout type, un porte-avions mieux défendu, un porte-avions qui sera capable d'opérer en coalition avec les principales forces maritimes du monde. Donc c'est une nouvelle très importante pour la marine nationale et une nouvelle très importante pour les armées. Il n'y a pas de doute sur le fait que la France a besoin d'un porte-avions dans les années qui viennent.
L'Égypte antique s'invite à La Villette. Le masque du roi Amenemopée est arrivé hier à la Grande Halle. À Paris, il est l'une des pièces maîtresses de l'exposition événement Ramsès et l'or des pharaons. Elle ouvrira ses portes vendredi et présentera 180 trésors d'exception venus des musées égyptiens. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place à Midi News à présent en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
Merci à vous, Mickaël, avec Eugénie Bastier. Bonjour, merci d'être là. Journaliste au Figaro, essayiste Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction La Correcte. Bienvenue à vous. Maître Carbon de Cèze nous accompagne. Bonjour et merci d'être là. Philippe Doucet, également porte-parole du Parti Socialiste.
Bonjour, Sonia.
Et présent, bonjour à vous. On va prendre tout de suite la direction de Marseille. Et j'adopte un ton de gravité parce que c'est véritablement un bilan lourd. Il y a 3 morts, il y a des blessés très graves. Et vous verrez tout à l'heure les chiffres sur une décennie, alors c'est vrai, sur une dizaine d'années, le nombre, le bilan de ces fusillades, le nombre de morts est édifiant, effrayant. Mais tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est cette nuit, 3 fusillades avec donc 3 personnes décédées, 3 autres sont entre la vie et la mort. Les quartiers nord, ça s'est passé dans ces quartiers-là, qui sont rongés, gangrénés par le trafic de drogue. Alors, je vous propose de ne pas aller sur le débat des moyens. Je pense qu'il est déjà dépassé. C'est-à-dire, qu'en est-il ? Est-ce que l'État a, oui ou non, perdu la guerre des territoires ? On voit d'abord le sujet de ce qui s'est passé, les faits, et on en parle juste après.
À la cité du Castellas à Marseille, des traces de sang sont encore visibles ce lundi matin. C'est dans ce quartier qu'une première fusillade a eu lieu, faisant 2 morts. Les résidents, habitués à ces scènes de violence, craignent pour leur sécurité.
Le jour que je n'irai pas partir, je m'en vais. On en a marre de ça.
Ça fait peur au quotidien ?
Eh bien oui, avec tout, il y a les enfants à peine de journée à la place. Alors quand ça se passe là la journée, c'est pas agréable.
Quelques minutes plus tard, à côté de l'autoroute A7, la cité des Égalades est elle aussi le théâtre de fusillades qui a fait 6 blessés, dont 1 entre la vie et la mort. Peu avant 1h du matin, une 3e fusillade a éclaté dans le 2e arrondissement de Marseille, près du quartier de la Joliette. Une personne est décédée et 2 autres sont en urgence absolue.
On se sent en sécurité nulle part en vrai. Nulle part. C'est choquant et ça fait mal.
Les 3 victimes de ces fusillades sont des hommes âgés d'une 20aine d'années. En 2023, les règlements de compte entre trafiquants de stupéfiants à Marseille ont fait 13 morts.
Et chaque fois, ce sont les mêmes commentaires, les mêmes coups de menton. Ça fait des années que les ministres de l'Intérieur se succèdent et répètent que nous menons, Arthur de Vatrigan, la guerre aux dealers, aux trafiquants. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'acter avec tout cela l'impuissance totale de l'État ?
Ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau. On oublie un peu ce qui s'est passé avant, mais je vous rappelle qu'à Marseille, il y a un juge qui s'était fait descendre. Là, ce n'est pas le cas. Malheureusement, c'est des guerres de voyous, de gangs, de trafiquants qui existent en pleine rue. Maintenant, c'est la nouveauté, c'est qu'en fait, ils osent aller dans le centre-ville assez facilement. Les quartiers nord de Marseille, ça fait longtemps qu'on connaît le problème. Je vous rappelle qu'il y a eu un film qui était sorti, qui avait créé une polémique énorme, qui semble après beaucoup de gens qui sont sur place qui étaient en deçà pourtant de la réalité. Donc est-ce que l'État a abandonné ? Non, l'État n'a pas abandonné. La question quelle méthode ?
C'est ce qu'ils disent. Moi, je suis allé voir le harcèlement des dealers, c'est-à-dire on démantèle, évidemment, ils se reconstituent.
Et le problème du trafic de drogue, c'est que ça génère 3 milliards par an de chiffre d'affaires en France.
C'est ça le vrai sujet.
3 milliards. Donc à 3 milliards, vous pouvez dissoudre des gens, c'est pas un souci. Puisque ça rapporte, ça génère 300 000 emplois, ça génère 50 000 emplois à plein temps de gens qui sont payés plus de 5 000 euros par mois. Donc à partir de là, les gens vont descendre leur territoire. Et à partir du moment où vous avez ce chiffre d'affaires qui existe, ça attire d'autres gens, ça attire d'autres gangs. Et vous ajoutez à ça les trafics d'armes de guerre. On sait par où ça passe. Ça vient des Balkans majoritairement. Ça arrive en Seine-Saint-Denis à Bagnolet par des cars de ligne internationale via les soutes. Tout ça est connu.
Bah alors vous venez d'acter de l'impuissance.
Ce n'est pas qu'une impuissance, c'est une question. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas parler des moyens, mais malheureusement, les moyens est un sujet. Il faut que l'État donne les moyens judiciaires, évidemment. Donc suffisamment de magistrats. Il faut qu'on pose la question des juges d'instruction. Il faut qu'on pose la question des prisons, évidemment. Et derrière, il y a une volonté politique. Parce qu'on sait très bien, et beaucoup de policiers nous parlent en off et nous expliquent qu'il y a souvent des ordres et des contre-ordres. Et qu'ils n'ont pas souvent le droit d'aller interpeller, qu'ils ont des limites d'interpellation de périmètre. Donc c'est ça aussi.
J'entends,
vous avez un souci interne et un souci externe.
Mais Carbon de 16, à chaque fois, et on va entendre un syndicat de policiers qui va être avec nous, je suis sûre, et ils ont raison de nous dire les moyens. Mais face à cela, face à cette économie dont vous parlez, dont les racines sont extrêmement profondes, c'est une question de moyens ?
Non, pas uniquement, de détermination aussi. C'est un terme que vous avez, le politique en manque, parce qu'il n'a pas toujours intérêt à ce que les réseaux soient démantelés, parce qu'il y a un phénomène aussi du fait de la puissance de feu financière qui a été très justement souligné. Il y a un sujet de corruption, il y a aussi un sujet d'ordre public, c'est-à-dire que parfois on achète la paix sociale en laissant la drogue se vendre. Mais il y a un terme que j'ai apprécié dans votre éditorial, c'est celui d'État spectateur. Et parfois, l'État raisonne à courte vue et se contente d'être spectateur parce qu'il pense y trouver son avantage en laissant les voyous s'éliminer entre eux. Eh bien, on voit très bien que ça n'est pas un bon calcul, que on ne régule pas la loi et l'ordre social en privatisant la fonction, en laissant à des bandes adverses le soin de se neutraliser.
Il y a aussi une question de rhétorique et d'idéologie. Pendant des années, les tenants du politiquement correct, et je vais les qualifier ainsi, les angélistes, dès qu'on disait Eugénie Bastier, ce sont des territoires perdus, on disait non, extrême droite. Et dès qu'on disait insécurité, non, sentiment d'insécurité. Est-ce que tout ça n'a pas été... Et les premiers perdants, c'est pas une question de gagner une bataille, les premiers perdants, ce sont ceux qui habitent ces quartiers, en réalité.
Non, mais la question, c'est est-il trop tard ? Je pense
c'est ça.
C'est la question qu'on peut se poser. Je vois que trois issues à ce problème endémique. C'est soit une forme de statu quo avec un petit peu de faux semblant que ce qu'il y a actuellement, c'est-à-dire la loi Darmanin, enfin le volontarisme de Gérald Darmanin qui consiste à aller taper les points de deal, mais on voit bien que ça ne change pas fondamentalement la situation. C'est une forme de harcèlement de basse intensité, mais qui ne fait tomber ne fait pas tomber ce système économique. Soit il y a la légalisation qui permet effectivement de supprimer cette filière-là au risque d'en voir réapparaître de nouvelles. Soit il y a une volonté très très forte d'envoyer peut-être l'armée dans ces endroits-là pour,
comme avait dit,
pour enlever les armes et au risque d'une guérilla urbaine, au risque de mort. Je suis pas sûre que ni l'opinion publique ni les
l'armée. Attendez, je précise pour une dissuasion, c'est ce que vous dites.
Pour confisquer les armes, par exemple.
Mais,
ça exige un déploiement de forces beaucoup plus supérieur à ce qui est le cas actuellement. Mais je ne suis pas sûre que ni l'opinion publique ni les pouvoirs publics y soient prêts.
Mais est-ce qu'on veut mettre à bas cette économie qui n'est presque plus parallèle ? On dirait que c'est une économie qui n'est même plus souterraine, tant on connaît les chiffres, les tenants et les aboutissants.
C'est compté dans le PIB de la France depuis 2018.
En plus.
Donc, c'est normal. Comment ?
C'est normal que ce soit compté dans le PIB.
C'est normal que ça rentre dans le PIB. Oui, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est pas assez souterrain, ça.
C'est peut-être ce qui arrange certains.
C'est même ce qui permet de quantifier. Mais bien sûr, c'est même ce qui permet de quantifier le mouvement.
C'est pas souterrain.
Moi, la question, c'est que derrière, il y a d'autres pays qui fournissent. Il y a nos ports qui sont devenus de véritables portes d'entrée pour une cascade, une avalanche de drogue. Qu'est-ce qu'on fait pour ces pays-là ? Est-ce qu'on a les moyens de taper du poing sur la table aujourd'hui ?
Écoutez,
on les connaît, ces pays.
Oui, on connaît tout ça. La difficulté, mais Eugénie a présenté le tableau. À l'arrivée, le volume de consommateurs, notamment de cannabis, est tel. Je rappelle qu'il y a 1 million de consommateurs jour de cannabis en France. Jour, je ne parle pas des consommateurs occasionnels du week-end. La France est le pays en Europe qui fume le plus de cannabis.
D'accord, mais là, ce n'est pas la fumette qui est le problème. Règlements de compte.
Derrière, il y a plusieurs choses, Sonia, dans cette affaire-là. Un, il y a la question, et là, c'est une opinion personnelle, ce n'est pas celle du Parti socialiste, mais à un moment donné... On est dans une logique de prohibition, comme il y a eu la prohibition de l'alcool aux États-Unis après la Première Guerre mondiale. Or, quand vous avez un phénomène social qui est non répréhensible, Il n'y a pas aujourd'hui, si quelqu'un, vous croisez quelqu'un dans la rue qui fume du cannabis, vous n'avez pas appelé la police pour qu'il vienne l'arrêter. Donc finalement, il y a un fait social qui est admis avec une volume de prohibition. Et comme on n'est pas capable, parce que là, Gérald Darmanin, Philippe, que ce soit sur Nice...
On légalise, et là c'est...
Ma position personnelle,
mais
c'est
qu'à un moment donné, il faut choisir ses combats.
Est-ce qu'on va faire la guerre urbaine avec des armes de guerre dans les Balkans, dans l'armée, qui n'est pas... habilité à ça, au demeurant. Hein. Donc ça, c'est une chose. J'aime beaucoup ma camarade Samia Ghali, mais elle n'est pas habilitée à ça. Parce que mener une guérilla, le GIGN, les choses comme ça peuvent faire ce type de choses. L'armée, ce n'est pas tout à fait sa vocation. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on continue dans ce que vous appelez la basse intensité, ce que fait Gérald Darmanin, mais le volume que qu'Arthur a évoqué, le volume financier, les enjeux financiers est tel que, évidemment, les gens sont prêts à se battre, d'où ces morts, pour défendre un territoire.
Vous ne pouvez pas, après une nuit de violence, après des décennies, etc., nous dire que la seule solution, la seule, c'est la légalisation.
Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que moi, il y a une partie, je pense que sur le cannabis, aujourd'hui, on fait vivre tout le trafic avec le Maroc. Il y a eu, je crois, un documentaire sur Arte, sur le volume financier que l'argent entre le Maroc et la France est brassé avec l'histoire du cannabis, y compris d'ailleurs la corruption au Maroc, à travers cet aspect des choses, il y a ça. Philippe, et après, il y a la question du trafic du cocaïne.
D'accord.
Je donne un exemple, un Decaire au Havre, vous voyez, ma ville natale, un Decaire au Havre, rien pour qu'il ne dise rien. C'est-à-dire qu'il n'ouvre pas le conteneur, c'est pas, il a vu, pour qu'il ne dise rien, il touche 50 000 euros. Donc vous imaginez que les moyens par rapport à ça. Donc vous avez des logiques, même de corruption passive qui existent par rapport à ça. Et j'ai eu des docteurs qui ont été torturés, parce que et tués parce que effectivement ils avaient ouvert le conseil.
Mais vous êtes en train de nous dire que face à ce qu'on appelle la terreur, parce que
oui, c'est une logique de terreur. C'est pas spécifique à la France. Vous avez la même chose en Belgique, vous avez la même chose aux Pays-Bas.
Mais donnez-moi le début d'une première solution. Ça fait des années que tous les gouvernements.
Le début d'une première solution, c'est déjà ce que n'a pas fait Gérald Darmanin, à savoir que là on parle de Marseille il y a quelques mois. Il a viré le directeur de la PJ de Marseille, qui avait des résultats 10 fois mieux que ses prédécesseurs pour des raisons personnelles et de guerre interne. Ensuite, il veut démanteler la PJ. Or, le problème du trafic de drogue aujourd'hui, notamment parce que Philippe parle du cannabis, mais aujourd'hui, le problème, ce n'est plus le cannabis. Hein. Quand vous avez l'héro qui est à moins de 40 euros le gramme, tout le monde est touché. Et le problème, c'est que ce n'est plus la French Connection qui offre une visibilité. Vous avez un problème de trafic de drogue dur, des plaines de labos jusqu'à Marseille. Donc, c'est-à-dire qu'il est plurisocial et plurigéographique. Et donc, à partir du moment où vous avez ça, ce que fait Gérald Darmanin en démantelant la PJ, qui justement, le principe de la PJ était que ça dépassait les départements, ça dépassait les frontières géographiques, donc ça pouvait avoir de pouvoir pister les trafiquants qui se déplacent de département en département, lui il fait tout l'inverse. Donc déjà politiquement il y a une responsabilité, si on pouvait commencer déjà par garder ce qui fonctionne et améliorer ce qui fonctionne, ça serait pas mal.
Non mais je partage... D'accord, on peut certainement au quotidien, plus ou moins, faire mieux, je ne doute
pas.
Mais
ce n'est pas faire mieux, c'est démanteler un truc qui fonctionne.
Mais après, derrière, quand tu vois le niveau d'étage entre le vendeur au pied de la cage d'escalier...
Un politique ne peut pas dire ça, Philippe. Vous ne pouvez pas acter d'une impuissance.
Mais je n'acte pas ça du tout.
Vous dites regarder...
Ce que moi je dis, c'est que je pense qu'il faut faire la part du feu. Moi, ma position personnelle, il y a la légalisation du cannabis et on produit... comme le font d'autres pays.
Ils se mettront sur la coke et sur les roues.
Mais après, tu focalises tes moyens sur cocaïne et héroïne. Là, vous voyez, le département de la Meuse, c'est un département où le volume de consommation d'héroïne a explosé dans la Meuse.
Attendez, Philippe.
On met nos moyens sur les drogues
dures. Tout le monde n'est pas d'accord. Le problème, c'est que même les policiers, quand vous les interrogez entre eux, ils ne sont pas d'accord sur la méthode qui est utilisée. Certains disent qu'il faut cette politique de harcèlement des dealers. D'autres disent que c'est superficiel et qu'il faudrait aller en profondeur. Mais si vous allez en profondeur, vous touchez aussi à des gros bonnets. Peut-être aussi à des cols blancs.
Mais
il faut le vouloir aussi derrière.
Mais bien sûr, vous touchez à des cols blancs parce qu'il y a d'abord tout un mécanisme de blanchiment du fruit de l'argent de la drogue. Il y a aussi tout un mécanisme de corruption. Il y a également un mécanisme de financement des campagnes électorales. Et que donc tout ça suppose de mettre à jour un tas de sujets sur lesquels, en général, on jette un voile pudique. En réalité, l'énorme débat qui se pose aux politiques, c'est en cas de légalisation, qui est effectivement une alternative sérieuse, mais c'est de savoir précisément le manque à gagner des dealers qui opéraient de façon clandestine. Par quoi vont-ils le compenser? Et c'est là que vous avez un immense sujet de sécurité, c'est qu'ils ne vont pas le compenser uniquement par la cession.
On devrait s'inquiéter du manque à gagner des dealers. Non,
oui.
J'entends. Ah oui, nous, on devrait s'en inquiéter.
Oui, parce qu'il aura une conséquence immédiate sur votre sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre à travailler légalement. Ça veut dire que c'est des jeunes voyous qui vont monter au braco.
Oui, mais donc, là, non, mais attendez,
l'énorme problème qui se pose aux politiques, c'est est-ce que je suis capable de faire face à une augmentation très sensible de l'insécurité, ou est-ce que, et je suis comme vous absolument déterminé à ce que l'État ne soit pas résolu à cet échec, et puisque l'échec est là, et il faut savoir si l'État est prêt à faire face à un surcroît d'insécurité.
Pierre Bontez, on va continuer à parler de Marseille, mais nous allons pas très loin à Nice avec ce qui s'est passé, avec ces images et cette vidéo qui choque, qui d'abord, en termes de temps, elle a été tournée, semble-t-il, par un habitant il y a déjà quelques jours. Vous allez la voir, une vidéo qui dure une trentaine de secondes où l'on voit des hommes habillés de noir. L'un porte, semble-t-il, une arme d'assaut. Alors, la préfecture des Alpes-Maritimes a communiqué pour dire qu'il y a eu des interpellations, 9 interpellations. Nous sommes en direct avec le préfet des Alpes-Maritimes. Bonjour, monsieur Bernard Gonzalez. Alors, on va parler de ces interpellations. Vous allez nous dire ce qu'il en est. Tout d'abord, je veux dire, pour ceux qui nous regardent, pour le grand public, il est vrai qu'une telle impunité, avec, semble-t-il, soyons prudents, des armes d'assaut en pleine rue dans le quartier des Moulins, ça frappe, je veux dire, le commun des mortels, le citoyen, les citoyens que nous sommes, et j'imagine aussi le préfet que vous êtes.
Oui, bonjour. Bien entendu, je ne peux pas être satisfait de ces images. Je tiens néanmoins à préciser que cette vidéo qui a été tournée le vendredi 24 mars dernier a donné lieu immédiatement à l'interpellation d'individus. Nous avons 3 de ces personnes qui ont été interpellées par les services de police et les investigations judiciaires sont en cours. Pour ce qui est des armes qui ont été exhibées, on peut penser qu'il s'agit d'un fusil d'assaut de style peut-être Kalachnikov, et également d'un pistolet automatique. Lorsqu'on les a interpellés, et on les a interpellés rapidement, pourquoi ? Parce que le quartier des Moulins est un quartier où la présence policière et les investigations menées par les services de l'État dans le cadre de cette priorité qui est donnée à la lutte contre le trafic du patient nous amènent à avoir des dispositifs sur place et à proximité. Donc ces individus n'étaient plus porteurs d'armes, mais dans l'après-midi même, nous avons pu procéder à des visites dans les parties communes à proximité de l'endroit où cela a été filmé. Et dans un box où il y avait des odeurs suspectes, nous avons pu trouver des stupéfiants et également un pistolet d'alarme automatique.
Bien.
Donc à ce stade-là, moi, c'est... je ne peux pas vous dire ce que c'était, mais il est clair que pour les habitants, c'est absolument choquant, que légitimement, ils ne peuvent qu'avoir peur face à de tels comportements. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi-même, jeudi dernier, je me suis rendu au Moulin pour une réunion avec l'ensemble des habitants du quartier. J'étais accompagné du procureur de la République, du maire de Nice, pour expliquer ce que nous faisons pour lutter contre le trafic de stupéfiants, mais aussi leur dire tout notre soutien et toute notre volonté de pouvoir
Monsieur
faire
le préfet,
mieux.
J'entends, et puis on entend votre volontarisme et ce que vous nous dites des interpellations. On va voir maintenant ce que cela va donner au niveau judiciaire. Moi, j'aimerais savoir sur le diagnostic, parce que là, est-ce que vous parlez vous-même, pour poser les choses, d'une occupation physique et peut-être même aussi culturel de territoire? Est-ce que, parce que pour soigner, je veux dire, les mots MAUX dans notre pays, il faut poser le bon diagnostic. Qu'en est-il là? Est-ce que vous voyez simplement, je veux dire, des gens qui se baladent avec des armes lourdes dans le pays, ou est-ce que ce sont des gens qui occupent un territoire?
Écoutez, manifestement, il y a la volonté de la part de ces bandes de s'approprier une partie de l'espace public pour pouvoir se livrer à leur trafic. Trafic qui, par ailleurs, sont économiquement... très profitable. Et l'on voit bien que notre engagement, notre activité policière nous permet de procéder très régulièrement au développement de ces points de deal, à la neutralisation de ces points de deal, et que très rapidement, je ne vais pas le nier, ces points de deal peuvent réapparaître à proximité. Donc je crois que le mot d'occupation du territoire et d'appropriation de l'espace public par ces individus est effectivement un mot correct. Par ailleurs, puisqu'on s'agit de territoire, il est clair qu'il y a des luttes entre groupes rivaux pour l'appropriation effectivement de ces territoires, et qu'à partir de là, ils sont prêts, et c'est ce qui est nouveau sur Nice, à procéder à des intimidations, à des exhibitions d'armes. Et c'est pour ça que nous devons réagir. C'est pour ça que nous avons réagi. Nous devons anticiper pour enrayer tout de suite le recours à de telles méthodes.
Merci, monsieur le préfet Bernard Gonzalez. Merci pour votre intervention en direct sur CNews avec donc ces interpellations. Et vous l'avez reconnu vous-même, hein, monsieur le préfet, évidemment, cette occupation de terrain. On va continuer à en parler. Nous serons également avec un policier. C'est pour ça que la question, est-ce que c'est tant les moyens plutôt qu'une bataille, j'allais dire, pas seulement sécuritaire, politique, idéologique et culturelle aussi, qui doit être menée avec toujours les mêmes qui subissent, ce sont les habitants de ces quartiers, Marseille, Nice, nous y serons.
C'est toujours dans les quartiers populaires.
On parlera aussi de l'offensive de Gérald Darmanin. Non, mais pas sur ce sujet.
Je suis surpris, Sonia. Je suis surpris.
Mauvais esprit. Après la pause, à tout de suite. La une de l'actualité à Marseille, une fusillade et un lourd bilan. Et puis à Nice, une vidéo qui choque et surtout une réalité qui choque. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
La semaine d'Elisabeth Borne s'annonce chargée. La première ministre reçoit les responsables de la majorité aujourd'hui. Elle débute notamment avec Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste au Sénat, à 13h30. Le gouvernement compte éteindre l'incendie autour de la réforme des retraites, alors qu'une 11e journée de mobilisation doit avoir lieu jeudi. La nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a affirmé ne pas croire à la pause sur la réforme des retraites. Elle estime qu'il n'y avait pas d'autre sortie de crise que le retrait. Élue vendredi à la tête de la CGT, elle a affiché sa volonté de maintenir l'unité de l'intersyndicale. Et puis après la victoire de la dissidente socialiste Martine Froger lors d'une législative partielle en Ariège, la question du groupe dans lequel elle va siéger se pose. En effet, elle a battu la députée sortante Bénédicte Taurine, candidate de la France Insoumise et candidate officielle de la NUPES. Martine Froger pourrait donc siéger soit au groupe PS, soit au groupe indépendant Liot. La décision pourrait être prise demain.
Merci pour ces informations. Nous serons dans quelques instants. Il est déjà là, je crois. Je le salue. Eddy Cid, qui est de l'unité SGP Police à Marseille. Bonjour à vous. Et tout d'abord, on va écouter cette habitante, justement, qui a appris la fusillade et ses conséquences, notamment son lourd bilan. Écoutons sa réaction.
Non. Vous avez entendu ou pas ? Non, pas du tout. Je viens d'entendre la nouvelle. Et c'est choquant, quoi. On a de ça toutes les semaines. J'espère que c'est pas une personne que je connais, c'est tout. Et voilà.
Il y a un mineur, visiblement.
Un mineur ?
Oui, de 16 ans.
Ouais, je n'étais pas au courant. Non. Je viens d'apprendre la nouvelle. J'espère que c'est pas une personne qu'on connaît, c'est tout.
Apparemment, c'est quelqu'un qui fréquentait le snack.
Le snack, je le connais, visiblement. Il n'y a jamais eu de soucis avec la personne concernée. Enfin, j'ai grandi ici, hein. J'ai l'habitude de manger. Il s'appelle Hakim. Voilà quoi, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est choquant, hein, surtout au quartier. On se sent en sécurité nulle part en vrai. Nulle part. C'est choquant et ça fait mal. Surtout au mois sacré, on est en mois sacré. En plein mois de ramadan, ils devraient se calmer les gens surtout.
Mais là, en plus, c'est dans le centre-ville, alors que les fusillades, on entend plus parler côté quartier marre.
Centre-ville aussi. Oui. Centre-ville. C'est un peu pareil de partout. Franchement, on est en sécurité nulle part. C'est malheureux de l'entendre, mais c'est comme ça.
Bien, le gouvernement qui dit qu'il harcèle les dealers, mais les dealers qui harcèlent les habitants, c'est le vrai sujet. Nous sommes en réalité avec Bruno Bartocchetti. Bonjour à vous, du même syndicat Unité SGP Police de la zone sud. Monsieur Bartocchetti, est-ce que la question, c'est ce que je viens de poser à nos invités autour de la table, est encore celle des moyens, de plus de policiers sur le terrain, quand on voit l'ampleur et la profondeur du problème depuis tant d'années, notamment à Marseille ?
Oui, alors sur le terrain, bonjour. Sur le terrain, désolé, il y a du vent. Sur le terrain, il y a beaucoup de présence policière, mais c'est largement insuffisant. C'est de donner les moyens, surtout aux enquêteurs, de travailler. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la police judiciaire, qui fait un excellent travail à Marseille, tout comme la sûreté départementale, est à l'agonie en matière d'effectifs et de moyens pour bosser. Et je crois qu'on doit aller au-delà du travail de la police, on doit donner d'autres moyens, bien sûr à la justice, on le dit souvent, mais on doit donner aussi des moyens à la douane, aux brigades financières, parce qu'il y a tout un réseau autour de ce trafic et tout ne se limite pas à un travail de rue. Et lorsqu'il y a trafic de stupéfiants, lorsqu'il y a trafic de drogue, vous avez bien sûr un trafic d'armes important. Ce sont leurs outils pour travailler et on tue aujourd'hui comme on pourrait licencier un CDD dans une entreprise en difficulté.
Mais les policiers, me semble-t-il, ne sont pas d'accord entre eux sur la méthode. Certains estiment qu'il faut cette politique de harcèlement des points de deal et d'autres disent que non, c'est la superficie puisqu'ils se reconstituent quelques jours après et qu'il faut aller en profondeur, vraiment, j'allais dire, arracher les mauvaises herbes. Mais ça, c'est de la responsabilité du politique.
Alors, sans me faire une réponse de Normand, tout le monde a raison. C'est-à-dire qu'il faut impérativement les gêner sur le terrain. C'est ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on gêne très sérieusement les points de deal. On gêne les consommateurs également. Mais il faut que ça aille au-delà, comme j'essaye finalement humblement de l'expliquer. Il faut aussi donner les moyens, au-delà de gêner les points de deal, de donner les moyens à tous ces enquêteurs de travailler sur du long terme pour faire tomber un réseau. Si on se limite uniquement à démanteler un point de deal, il va se reconstruire aussitôt derrière. C'est une évidence, c'est ce qui se passe. Et c'est pour cette raison qu'on demande beaucoup plus de moyens pour justement faire tomber un réseau. Et là, ça demande...
Face aux moyens dont vous pourriez disposer en plus, en face, c'est toujours encore plus de moyens. C'est toujours une occupation de terrain plus importante. C'est toujours des armes de guerre encore plus lourdes. Jusqu'où ça va aller ?
Mais écoutez, espérons qu'on arrivera à limiter les dégâts. Je dis bien limiter parce que le combat face aux stupes, il sera éternel. Voilà. Ce qui compte aussi, c'est quand je regarde les images, je pense à tous ces habitants dans ces cités qui aspirent au calme. Alors déjà qu'on se donne les moyens de leur permettre de travailler, de vivre dans l'apaisement, et nous avoir un peu plus de moyens, bien sûr, pour démonter ces réseaux. Mais ça prend une ampleur internationale. Ça se limite pas, franchement, à Marseille. C'est là où c'est vraiment des moyens sur du long terme qu'on attend. Et j'ai envie de dire que là maintenant la réponse elle est politique. Est-ce qu'on a envie réellement de repousser ce phénomène sur un plan politique ou pas ? Et la question est posée et c'est pour cette raison que souvent sur votre antenne j'ai parlé des GIR, des groupes d'intervention régionaux, c'est là où on a les douaniers, les gendarmes, les policiers, le trésor public qui peut travailler ensemble. Si on donne là aussi un peu plus de moyens pour démanteler ces réseaux, on aura des résultats. Là on est chaque fois sur du court terme et c'est pour cette raison que régulièrement on parle de règlement de compte sur ces réseaux de stupéfiants.
Bruno Bartolucci, restez avec nous. Est-ce que vous avez un exemple, un pays, un État qui a réussi, en tous les cas, qui progresse dans sa lutte contre les trafics ?
Non.
Aux États-Unis, avec tous les moyens qui ont été mis, et les moyens très lourds, et les millions de dollars, non.
Non.
Ça veut dire que c'est...
C'est même aggravé aux États-Unis, parce que maintenant, il y a même les drogues de synthèse.
Donc, quelle conclusion ?
Il y a des États, ils ont le Colorado à légaliser le cannabis, il a baissé les impôts tellement il a eu de rentrée d'argent avec la légalisation du cannabis.
Quand on parle de moyens, c'est qu'on parle de volonté politique, évidemment, derrière, parce que c'est un multisujet. Il y a, par exemple, on ne parle jamais d'immigration dans ce sujet-là, mais si, rappelez-vous, à Dijon, en 2021, il y avait une guérilla entre communautés maghrébines et communautés albanaises. Parce qu'on sait très bien que si la drogue se répand partout dans le territoire, c'est aussi par les diasporas. Vous avez des diasporas albanaises, vous avez des diasporas turques qui sont aujourd'hui le premier par qui transite l'héroïne.
Et c'est pas parce que l'immigration zéro que
non, mais ça veut dire que vous avez des diasporas, c'est un appel d'air pour l'immigration. Et dessus, comment on se rémunère pour la diaspora albanaise et turque, par exemple, par l'héroïne, parce que c'est fabriqué en Afghanistan, mais c'est eux qui amènent ça sur le marché européen. Et d'ailleurs, ça se rediffuse partout. Et donc, si vous avez des guerres de communauté, donc des guerres culturelles, c'est parce que ces diasporas-là prennent en main des marchés. Donc, il y a aussi la question, évidemment, des frontières et donc de l'immigration. Il y a la question culturelle, mais vous parliez tout à l'heure de l'État dans l'État que vous avez fait arracher du bout des lèvres au préfet, mais c'était un sujet il y a 10 ans. Aujourd'hui, les États dans l'État, c'est plus le cas. Ils envahissent les centres-villes.
Bruno, vous êtes juste d'accord sur aussi le sujet, ou en tous les cas, la réalité de l'immigration par rapport à ces trafics ?
Ah, écoutez, aujourd'hui, c'est sûr que tout est lié, hein, bien sûr, et évidemment, puisque de toute façon, que ce soit n'importe quel stupéfiant, ça ne naît pas forcément en France. Donc forcément, il y a tous ces réseaux qui arrivent de l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive, je prends l'exemple du cannabis et du Maroc, est-ce qu'on arrive vraiment à enrayer ce problème-là ? Non, on sait qu'il y a un marché très important là-dessus. D'ailleurs, quand on interpelle, lorsqu'on fait tomber des réseaux, nous n'avons pas que des Français qui sont concernés. Vous en avez forcément. Alors, je ne parle pas du guetteur, je ne parle pas du dealer du coin, mais dès qu'on commence à toucher au grand réseau, on voit bien que ça va au-delà de nos frontières, bien évidemment.
Surtout, il y a ce que l'on voit, c'est-à-dire que la drogue est fauteuse de désordre, mais il y a ce qu'on voit moins, peut-être, c'est qu'elle est aussi fauteuse d'ordre. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'en 2005, quand il y avait les révoltes des banlieues qui s'étaient calmées le plus vite, c'était le banlieue où il y avait le plus de dealers, parce que justement, il y avait eu.
Lidler avait dit bon, maintenant on se calme parce que ça nuit au trafic. Et aujourd'hui, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a certains territoires, en effet, enclaves, territoires perdus de la République,
qui sont caricaturales dans le 16e arrondissement de Paris que dans certains quartiers nord de Marseille. Vous avez autant de drogue, peut-être.
Oui, mais
de ceux qui consomment, hein, je parle.
Hein, je veux dire, c'est ce matin. Si, est-ce qu'il y a un moment, si on s'attaque véritablement à ces trafics, il y aura aussi de la déstabilisation dans des quartiers.
Sans consommateur, pourquoi le trafic, on n'arrive pas? Parce que le volume de consommation de drogue, il est variable selon les pays. Mais par exemple, en France, sur le cannabis, c'est le pays en Europe qui consomme le plus de cannabis. Très loin devant les Allemands, très loin même devant les Espagnols. Bon, donc ça, c'est un choix de la société française. L'évolution sur les drogues de synthèse, il y a aussi une évolution. On va avoir nos propres labos, si je puis dire, de production de drogues de synthèse.
Alors, au lieu d'aller vers la légalisation, durcissons encore la consommation, plutôt. Mais responsabilisons les consommateurs qui pensent que...
Sonia, moi, je ne pense pas qu'on...
C'est vrai qu'il faut être beaucoup en avis vers les consommateurs.
Ce que vous pensez, c'est une chose... Moi, ce que je veux que ce soit efficace
Sonia,
pour les gens
justement, parce que c'est aussi le souci. Quand moi, j'ai des... Mais si, parce que derrière, quand j'ai
des parents... Quel pays a légalisé et ça a fait diminuer les trafics?
Non, mais aux États-Unis, après, il y a eu les problèmes des prescriptions des médicaments opiacés par les médecins. Donc, il y a un système particulier aux États-Unis lié aux médicaments et opiacés, ce qui fait que l'espérance de vie pour les hommes aux États-Unis a reculé liée à ces médicaments-là.
Donnez-moi un exemple, soyons clairs, d'un pays qui a légalisé et qui a vu ses trafics chuter.
Non mais je pense qu'il y a deux choses dans le trafic.
Il y a deux stades, si vous voulez, dans le trafic. Et c'est en réalité l'immense problème, si vous voulez, c'est qu'on n'a toujours pas de définition des drogues en droit. Donc ce problème de la légalisation, c'est le problème d'une liste que vous établissez. Et pour les drogues chimiques, ça correspond à des formules, pour le hashish, au taux de THC, etc. Donc vous avez deux sujets. Vous légalisez, mais vous légalisez jusqu'à, par exemple, pour prendre le hashish, jusqu'à un certain degré de THC. Vous aurez toujours, vous avez raison, un trafic pour avoir du hashish avec un taux de THC supérieur à celui autorisé. Donc de toute façon, c'est impossible à quantifier.
Vous ne savez pas arrêter la légalisation en réalité.
Non, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a des drogues de synthèse qui ne rentrent pas dans le tableau des drogues. C'est un problème qu'on connaît bien, par exemple, dans le dopage sportif. Vous savez très bien qu'il y a des coureurs du Tour de France qui ont les moyens de se payer des chimistes, qui ont la formule qui échappe au tableau. Et puis, il y a le lumpen prolétariat qui n'a pas les moyens et qui, lui, se fait attraper. Bon, ça, c'est un vrai exemple de la lutte des classes. Ben, c'est pareil dans le monde des drogues. Il y a celui qui a la formule qui échappe au tableau légal et il y a celui qui continue à cultiver. Mais ça, par définition, c'est inquantifiable.
Bon, dernière question, Bruno Bartocchetti. Vous avez dit tout à l'heure un combat ou une lutte éternelle. Quand vous dites combat éternel, c'est-à-dire que c'est une forme d'impuissance aussi. C'est-à-dire qu'on est en train de vider la mer avec une petite cuillère.
Vous avez la réponse à votre question et ce serait très prétentieux de ma part d'admettre qu'un jour on pourra gagner ce combat. Ce combat, on le gagnera lorsque notre société sera moins malade, et elle est bien malade parce que nous avons beaucoup de consommateurs de stupéfiants et de plus en plus. Alors notre travail, il est fait, nous avons des résultats très intéressants, nos collègues policiers vraiment travaillent beaucoup et sont très très fatigués, mais ils savent qu'on restera dans un combat permanent face aux stupéfiants. L'idée, c'est de diminuer au maximum ces réseaux, surtout de donner un apaisement aux personnes qui attendent de vivre justement dans la tranquillité à travers ces territoires, ces cités. Mais le combat, franchement, on ne le gagnera jamais face aux stupéfiants. On diminuera, si on nous donne les moyens de travailler, on diminuera peut-être le nombre de réseaux.
Eh bien, merci aussi pour votre lucidité, Bruno Bartocchetti. On aura l'occasion d'y revenir et vous rappeler une évidence, ça je pense qu'on pourra tous être d'accord, c'est que les forces de l'ordre sont partout, fatiguées, sur différents fronts, et le premier flic de France, le ministre de l'Intérieur, est venu les défendre hier. Il l'a fait au cours de notre émission Le Grand Rendez-vous, également dans le journal du dimanche. Offensive contre l'extrême-gauche, terrorisme intellectuel, a-t-il dit, en rappelant et en pointant ceux qui ne condamnent pas clairement les violences, notamment commises contre les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Mais il a aussi, je voudrais vous faire réagir sur cela, rappeler d'où viennent les policiers. Ils sont les fils et les filles du peuple, écoutons-le.
Ce sont des fils et des filles du peuple, c'est eux les enfants des classes populaires et classes moyennes. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs chez les policiers et chez les gendarmes qui s'engagent pour protéger la République. Ils ne le font pas pour protéger la politique d'un gouvernement, ils le font pour protéger les biens et les personnes.
Est-ce que certains ont oublié cela, tout simplement? C'est-à-dire que je rappelle, les policiers font partie des manifestants aussi contre la réforme des retraites et sont souvent...
Ça me fait penser à ce que disait, je vais pas comparer Gérard Darmanin à Pasolini, mais Pasolini disait en mai 68, vous savez, quand il y avait les étudiants casseurs à Rome qui cassaient justement et qui attaquaient les policiers, il avait dit les policiers sont les fils de pauvres et vous êtes les fils à papa, les fils de bourgeois. Bon, là s'arrête ma comparaison, mais effectivement, il a raison de rappeler que généralement ils sont issus de catégories populaires, parfois même aussi de catégories de population issues de l'immigration. En grande partie, et qu'ils ont un métier difficile, conspué par une partie de l'opinion publique, et il a raison de tenir ce discours.
Il le rappelle parce qu'il estime, et là c'est ce qu'il dit, qu'ils ont été carrément déshumanisés par rapport à tout ce qui est en train de se passer, qu'on ne voit plus que le policier, qu'on ne voit pas derrière. Non mais c'est vrai, et c'est pour ça que de nombreux policiers...
Séparer l'homme de l'œuvre, quoi.
C'est pour ça que de nombreux policiers viennent sur les plateaux de télévision pour dire on est des pères de famille. Quand on se réveille le matin, nos femmes, ou à l'inverse, si c'est une femme, ou peu importe, nos compagnons, ont peur qu'on ne rentre pas le soir. Ça, c'est une réalité aussi.
Bon, et la famille est menacée aussi.
Et, souvent, et les enfants, souvent, ne donnent pas le métier du père ou de la mère, etc.
Bon, mais il y a deux choses, que les policiers, les policières et les policiers soient des filles et des fils du peuple, c'est une réalité. Ça c'est le premier bien, qu'elles viennent de tous horizons. Il suffit de se rappeler le policier qui a été tué au moment de Charlie, les premiers qui ont été tués, ils étaient issus de l'immigration et plein d'autres, on a plein d'exemples. Bon, donc ça c'est une chose. Après, effectivement, comme vous le disiez, il y a l'œuvre. Donc l'œuvre, c'est finalement des policiers, ils ont une hiérarchie, et on leur donne des doctrines d'emploi de la force. Et le débat qu'il peut y avoir, c'est autour de la logique du maintien de l'ordre.
D'abord la question. Après, on a une heure pour en parler. Moi, je vous dis, est-ce que parfois on oublie que, non, mais pardonnez-moi, quand vous rentrez chez vous, et je l'espère de tout cœur, n'avez pas d'énormes problèmes eu égard à votre métier. Est-ce qu'on oublie la dangerosité de leur métier? Est-ce qu'on oublie aussi que ce sont tout simplement des familles? Ceux qui ne condamnent pas les violences.
On n'oublie rien, mais j'aimerais savoir en quoi les origines sociales sont exonératoires de responsabilité. En quoi vous n'encourriez pas la responsabilité d'avoir entrepris ou obéi à un ordre illégal? En quoi le fait d'être d'origine sociale modeste vous ferait échapper à votre responsabilité? Sans compter que, en réalité, Monsieur Darmanin opère là un jeu de bonneteau un peu absurde. Parce que ce qu'on critique, c'est les ordres que reçoivent ces gardiens de la paix. On n'a pas critiqué le gardien de la paix en lui-même. D'ailleurs, les actions que mes confrères ont engagées...
Certains le font. Quand Jean-Louis Mélenchon dit qu'il faut les mettre en hôpital psychiatrique, en parlant de la brave...
Une enquête a été ouverte sur ces propos.
Voilà, c'est pas...
Ils ont même déposé une plainte pour injure, ce qui est un choix procédural intéressant, parce que normalement, ils auraient dû choisir la diffamation. Mais ça suppose qu'on puisse apporter une contre-preuve. Le sujet, c'est qu'ils sont un peu, j'allais dire,
pris pour cible pour ce qu'ils sont, pas seulement pour les ordres, car bon, c'est, reconnaissons-le. Quand certains crient à la police, suicidez-vous, il ne s'agit pas d'ordre.
C'est d'une grossièreté. Précisément, si vous voulez, l'esprit de confusion de Gérald Darmanin le pousse à dire, en réalité, quand vous vous en prenez à la police, vous vous en prenez à des filles et fils du peuple. Donc, vous êtes quelque part dans la condescendance bourgeoise à l'égard de gens qui servent vos intérêts. Non, nous, on n'a jamais attaqué la police, police en tant que telle.
Pourquoi vous dites « nous » Il parle de Jean-Luc Mélenchon.
Il parle également des confrères qui ont déposé des plaintes contre les gardes à vue abusives, etc. Or, en l'occurrence, mes confrères qui ont pris en charge ce combat n'attaquent pas des policiers ad hominem, ils attaquent des ordres, instructions.
Là, franchement, j'étais face à lui, je pense que vraiment, il a rappelé une évidence, et ensuite, il dit qu'ils font partie aussi des manifestants contre la réforme des retraites. Il veut juste rappeler qu'ils sont aussi contre certaines réformes, qu'ils sont parmi le peuple quand ils manifestent.
Très bien. Je maintiens ma question. Ça remet en cause quoi que ce soit?
C'est pas que ça remet en cause, mais en fait, ça va dans... C'est l'extrême gauche qui, lors des manifestations, vise la police, les antifas, avec leur metal black box, vise la police. Et l'histoire et la narration qu'ils racontent, c'est nous sommes du peuple, et on va lutter contre le grand capital et la bourgeoisie. Et si Eugénie parlait de Pasolini en 68, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au nom... Au nom de la lutte contre la bourgeoisie, ils vont taper des fils du peuple, eux qui sont eux-mêmes fils de la bourgeoisie. C'est juste une arnaque que Gérald Darmanin, pour le coup, qui a euh,
des casseroles, c'est même plus des casseroles, c'est une batterie de cuisine et un bilan affreux qu'il faut dénoncer. Là, pour le coup, c'est bien la première fois au moment où on parle que de violence policière qu'il, au moins un ministre de l'Intérieur, défend ses équipes. La dernière fois, c'était Castaner, qui était le Avril Dalton de la Macronie, qui est le président de la République, qui parlait de violence policière quand la gauche
et les
médias
attaquaient. Il ne les défend pas, il leur impute la responsabilité de ce qui se passe en s'exonérant lui-même. C'est-à-dire qu'on braque les projecteurs sur la troupe pour mieux épargner les états-majors.
Non, c'est pas ça.
Bien sûr que si.
Je pense que...
Il relégitime l'usage de la force pour la police.
Par contre, c'est tout. Je pense qu'on ne peut pas délégitimer toute critique de la stratégie du maintien de l'ordre au nom, effectivement, d'une sanctuarisation du métier de policier. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais on est crédible que quand on, sur cette critique de la stratégie du maintien de l'ordre qui pose des questions, et pas seulement depuis les Gilets jaunes, mais bien avant, hein, depuis la Manif pour tous, il y avait déjà des premières plaintes
sur les gardes de vue abusives,
etc. Mais on est crédible quand on critique ça que si on condamne en même temps les casseurs et l'ultra-gauche, ce que ne fait pas Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il l'avait fait auparavant. En 2014, en 2016, en 2018 et en 2021, Jean-Luc Mélenchon a condamné les casseurs qui agissaient en marge des manifestations, notamment du 1er mai. Il ne le fait plus. Pourquoi ?
Moi, le débat qu'on va mener,
il a choisi une stratégie, la stratégie de l'hyperconflictualisation, et il en est responsable.
Le débat, on va le mener sur la doctrine du maintien de l'ordre. La question, c'est au préalable, il faut d'abord condamner quand il y a des violences contre les forces de l'ordre, qui sont aussi des fils et des filles du peuple, de la nation, etc. Mais c'est ça.
Oui.
Ce qu'il a... Non. Oui, mais est-ce que c'est oui?
Non, mais on ne dit pas le contraire.
C'est
pour ça que je disais.
Vous qui êtes visé ici, pardonnez-moi.
Ok, mais après, on va parler du jeu politique.
On se sent pas visé.
Mais
qui dit le contraire?
Il peut jouer à Roland-Garros. Il peut jouer à Roland-Garros avec Jean-Luc Mélenchon.
Je suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait aller castagner les forces de l'ordre.
Quand vous condamnez pas.
Marine Tondelier l'a dit, évidemment. Sandrine Rousseau l'a dit. Toute l'extrême gauche l'a dit.
Marine Tondelier, non, je suis pas avocat de Marine Tondelier. Elle a dit qu'eux, ils étaient dans la non-violence. Par rapport à ça.
Enfin, quand on leur pose la question sur le Black Bloc, ils répondent oui, mais en fait, s'il n'y avait pas les policiers, ils n'auraient pas attaqué. Pardon.
Elle était à Sainte-Soline, justement, ils ont été dans une stratégie non violente. Au moins, reconnaissez-lui ça. Enfin, je ne suis pas l'avocat de Marine Tondelier, mais là-dessus, elle est sur une ligne assez claire par rapport à ça.
Pas claire du tout.
Donc, je peux intervenir. Je l'ai eu en interview et c'était au sujet de violence contre les élus, de manière générale. Et j'ai posé 10 fois la question sans avoir la réponse.
Ça, le problème.
Sur les forces de police, sur les élus.
On condamne toutes les violences quand même.
Mais admettons votre hypothèse.
Sur les élus, sur les forces de l'ordre.
Qu'il y ait un silence coupable de la part d'une certaine extrême gauche.
C'est un débat politique, oui.
Non, mais attendez, vous dites qu'ils ne condamnent pas, donc ils sont d'accord.
Vous avez entendu paroles de condamnation ?
Très bien. Je vous suis, Sonia. Je suis en train d'illustrer votre question. En quoi le fait que certains ne condamnent pas, ou même par omission de s'exprimer contre, s'associerait à des actions violentes, en quoi cela permettrait que des débordements policiers, des ordres illégaux soient exécutés et qu'on place en détention arbitraire des manifestants, c'est-à-dire des opposants politiques. C'est-à-dire que ce que cherche à faire Monsieur Darmanin, en l'espèce, c'est de vous dire les violences policières sont compensées par les violences des manifestants. Moi, je vous dis, ça ne se compense pas, ça se cumule. Mmh. Et il y en a un qui est censé obéir à la loi et qui lui désobéit en procédant à des violences. Je vous dis très simplement que c'est d'autant plus étonnant que le même corps s'exprime via ses représentants régulièrement pour dire que la loi n'est pas respectée. Et aujourd'hui, vient prendre la défense corporatiste de ces éléments qui violent la loi. Donc je vous dis qu'il y a là, de la part réponse, de M. Darmanin, une confusion soigneusement entretenue qui échappe à la logique commune.
La réponse après la pause, on va continuer à en parler, parce que vous allez voir que l'extrême gauche qui vit, c'est assez large.
Ah oui, pour M. Darmanin.
C'est assez large.
Oui,
alors, est-ce qu'elle s'installe dans certaines facs, cette extrême gauche? Mais alors, des facultés, on pensait véritablement qu'elle serait plutôt sanctuarisée. Assas, Dauphine, Lyon 3... plutôt conservatrice.
Lyon 3, il y a toujours eu des guerres.
Assas et Lyon 3, plus que conservatrice.
Quand vous étiez il y a 50 ans, il n'y avait pas tout ça.
50 ans
non, mais je plaisante. Une courte pause. On va se retrouver aussi, évidemment, avec une semaine décisive sur le plan des consultations. Et pendant ce temps, où est-ce qu'on peut lire l'interview de Marlène Schiappa ou du président de la République?
Pif. Dans Pif Gadget. Oui.
Et Playboy.
Pif et Playboy, dont Pif est géré par Frédéric Lefebvre.
Et alors bon, mais merci de l'information. Une courte pause et on se retrouve. À tout de suite.
Maintenant, Bruno Le Maire dans Rustica.
Une semaine décisive, comme on dit décidément, je crois que je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais celle-ci l'est parce qu'il y a une 11e mobilisation le jeudi et auparavant, eh bien, nous les comptons dans quelques instants. La Première ministre poursuit ses consultations, mais pour quel objectif? Ce sera après le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. À Marseille, des fusillades ont fait 3 morts dans 3 cités des quartiers nord. Gangrénés par le trafic de drogue, les victimes sont des jeunes hommes de 16, 21 et 23 ans. 3 autres individus sont entre la vie et la mort. Les précisions dans la cité phocéenne de Lorpa.
Les faits se sont déroulés en un peu plus d'une heure cette nuit. Une première fusillade éclate aux alentours de minuit dans le 15e arrondissement de Marseille, au pied de la cité Castellas. Un groupe d'individus est pris pour cible, 2 personnes sont tuées. Quelques minutes plus tard, la seconde fusillade a lieu dans le même secteur, mais de l'autre côté de l'autoroute A7, à proximité de la cité des Égalades, faisant plusieurs blessés. Et enfin, vers minuit 40, en centre-ville, dans le quartier de la Joliette, la 3e fusillade éclate. Une victime âgé de 16 ans, décède sur les lieux. 3 fusillades dans des secteurs défavorablement connus par la police pour trafic de stupéfiants. Écoutez Rudy Mana, le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police.
C'est des endroits qui ramènent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, et que ça attire la convoitise de tout le monde, et même de gamins de 20 ans qui pensent qu'ils vont devenir riches en 3 ans et qu'ils vont avoir une vie de rêve à Dubaï. Donc c'est ça la vraie difficulté. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui font qu'aujourd'hui les règlements de compte sont beaucoup plus importants. On a un début d'année assez catastrophique, je crois qu'on en est déjà à 13.
La police judiciaire a été saisie. À ce stade de l'enquête, aucun lien n'est établi entre ces 3 fusillades.
Emmanuel Macron veut bâtir un modèle français de la fin de vie et attend du gouvernement un projet de loi d'ici la fin de l'été. Alors que la Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour légaliser l'euthanasie, le chef de l'État a pris la parole tout à l'heure. Écoutez-le.
On a besoin de ce chemin partagé où nous sommes dans le déséquilibre, en quelque sorte, des confrontations respectueuses et de l'avis des autres, mais qui doit conduire à un moment donné à prendre une décision, à bâtir un chemin, ce sera ce projet de loi. Je n'ai donc pas à vous promettre de reprendre l'une ou l'autre de vos conclusions, elles suivront leur cours. Quelque part, votre victoire, c'est qu'elles existent.
Emmanuel Macron qui reçoit actuellement à déjeuner la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est arrivée, vous la voyez sur ces images, au palais de l'Élysée, accueillie par le président de la République. Un pompier a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite. Les faits se sont déroulés à Bordeaux ce week-end. Le soldat du feu était en pleine intervention lorsqu'il a demandé à un automobiliste de ralentir pour sécuriser la zone. Mais le chauffard a refusé. Le sapeur-pompier a été blessé à la cheville. Un incident qui ne surprend pas vraiment le lieutenant-colonel David Anotel de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
C'est un climat global qui est pas profitable, qui est quand même un peu à la désobéissance, au comportement délicieux. Voilà. Il y a un climat général à l'heure actuelle en France qui n'incite pas forcément au respect des règles. Mais là, encore une fois, on n'est pas, même si on ne peut pas le cautionner non plus, hein, mais on n'est pas face aux forces de l'ordre, on est face aux sapeurs-pompiers. Donc c'est tout simplement inadmissible et impensable.
Et puis la Grèce réclame de l'aide à l'Union européenne pour faire face à l'immigration. Le Premier ministre grec demande un soutien financier pour l'extension de sa clôture anti-migrants. Athènes souhaite prolonger de 35 km sa barrière métallique de 5 mètres de haut qui longe sa frontière avec la Turquie. Écoutez le chef du gouvernement grec.
Ce que vous voyez ici a été financé exclusivement par le budget grec, par les contribuables grecs. Mais je pense qu'il est temps que l'Union européenne envisage sérieusement de fournir des fonds européens pour ce type de projet. Car après tout, nous contribuons à la sécurité européenne et nous contribuons également à une politique d'asile européenne plus intégrée et plus efficace.
Bon après-midi sur CNews en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
Effectivement, pour parler dans quelques instants de ce qui s'est passé à Marseille, et la question, puisqu'on a beaucoup parlé du ministre de l'Intérieur, c'est sur ces sujets, que dit-il? Parce qu'il a présenté son bilan d'ailleurs avec le ministre de la Justice il y a quelques semaines, et tout allait dans le bon sens pour lui, on l'écoutera de nouveau. Mais tout d'abord, vous savez, c'est une semaine de consultations décisives, une semaine qui s'annonce décisive pour l'exécutif sur la réforme des retraites. Écoutons la Première ministre, elle vient tout juste de s'exprimer.
Alors nous avons des points de désaccord, mais ce que je note, et j'ai eu beaucoup d'échanges ce week-end, c'est que les forces politiques, la plupart des forces politiques dans notre pays, partagent mon souhait, d'apaiser le pays et d'apporter des réponses très concrètes aux Français sur la santé, sur l'éducation, sur la transition écologique. Donc j'ai pas de doute qu'on pourra bâtir ensemble un agenda pour apporter des réponses aux Français.
Bon, hein, voilà, un apaisement pendant que nous parlons de Sainte-Soline, de scènes de chaos, de tout ce qui s'y passe. Ouais. Je voudrais revenir sur le ministre de l'Intérieur par rapport à ses priorités. Nous évoquerons dans quelques instants son offensive sur l'extrême-gauche, mais par rapport à ce qui s'est passé hier soir, c'est vrai, il s'est exprimé en amont d'une nuit ensanglantée, c'était véritablement un bain de sang à Marseille. Et il y a quelques semaines, il avait mis en avant les points de deal qui ont reculé, 22% dit-il sur un an, etc., etc. Et s'était félicité avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Mais qui croit encore à cette communication?
Personne. Ah bah, mais même, ceci hein, dit, mais même. Oui, lui-même, mais il, est, il se dit, bon... Le jour d'après aura poussé ce que j'aurais dit le jour d'avant et il gère le quotidien en termes de communication.
Les habitants qui vivent cela, ils ne réagissent pas comme ça. Oui, ils voient bien que les trafics sont toujours là, que
tout le monde le voit. Personne n'est aveugle, mais on est dans un espèce de théâtre d'ombre où lui-même, il est dans une stratégie politique clairement affichée. Comment je prends la suite d'Elisabeth Borne, comment j'essaye de rassembler la droite. Donc du coup, je joue au tennis avec Jean-Luc Mélenchon à Roland-Garros. Toi, tu es
le frein à gauche. Vous pensez que pour cacher aussi le bilan.
Donc, et on est là-dessus pour prendre la dimension sécuritaire. Il est bien le fils de Nicolas Sarkozy.
Il parle, vous regardez, Gérald Darmanin, il fait, on dirait, un Sarkozy bas de gamme. Il squatte l'actualité depuis que Macron a été réélu. Notamment, rappelez-vous, tout l'été, il était là. Tout l'été, les interviews, des télés, il n'arrête pas. Il faut qu'il parle parce que son bilan, en effet, est catastrophique. Il n'a pas vu les Anglais débarquer en Seine-Saint-Denis. Il y a Equissem qui s'est baladé toute l'année en se moquant de lui et c'était pas grave. Toutes les voyants de la délinquance sont dans le rouge. Il y a évidemment des guérillas urbaines et des guérillas de campagne depuis un mois. D'accord. Et ça n'arrête pas.
Et qu'a fait Emmanuel Valls, qu'elle fait j'ai cité la liste.
Exactement comme lui. Bon, d'accord, sauf que lui, il parle.
Vous nous dites qu'un ministre de l'Intérieur en France, ça ne sert à rien.
Non, lui, il ne sert à rien. Enfin, un ministre.
Alors, cite-moi-en un qui a servi à quelque chose.
Je pense que Sarkozy a fait un peu plus du temps où il était ministre de l'Intérieur. Et je pense, notamment en 2005, et là, c'est là, je pense, l'avis différemment de Jenny, c'est que les émeutes de 2005... D'après ce qu'on m'a raconté, c'était pas calmé à cause des points de drogue, c'est que ça s'était déclenché parce qu'il avait tapé des points de drogue. C'était l'inverse. Et qu'après, il avait reculé et c'était pour ça que c'était calmé. Mais en tout cas, je pense qu'il avait fait un peu plus. Un peu, hein, c'est pas non plus... voilà. Je pense que Gérald Darmanin, lui, il ment ouvertement. Il a déclenché une guerre de 100 ans avec les Anglais. On s'est fait humilier, il continue à nous humilier. En même temps, Emmanuel Macron le fait aussi avec Charles III, donc c'est je ne suis pas une volonté française, et puis son bilan est cata, mais vraiment catastrophique, alors que la délinquance, l'insécurité ne cesse que d'augmenter.
Les chiffres sont manipulés ou pas? Parce que ce n'est pas possible.
Quels chiffres?
Les chiffres là, c'est-à-dire que sur une année, les points de deal ont diminué de 22%.
Oui, mais il n'a pas calculé le point de deal qui se reconstituait. On peut faire ça, on peut faire une balance.
Il faut regarder deux choses, si vous voulez, mais on en revient à votre question initiale. En réalité, un point de deal, vous pouvez le taper... S'il repousse à quelques mètres, c'est une opération nulle, mais vous pouvez vous vanter d'en avoir supprimé un. La vraie question, c'est est-ce que c'est intéressant de supprimer les points de deal si on ne supprime pas l'échelon supérieur qui décide de l'endroit où se placent les points de deal?
Mais alors, pourquoi cet échelon supérieur n'est pas supprimé? Pourquoi?
Pardonnez-moi.
Pourquoi n'est-il pas supprimé? C'est-à-dire qu'il y a une forme de complicité qui peut.
Non, les consommateurs de la complicité, mais précisément, puisque la politique du chiffre, et c'est là que je diverge de monsieur d'Intrigan, c'est-à-dire que. Vous avez instauré une politique du chiffre qui va conditionner votre carrière au sein du ministère de l'Intérieur. Donc à partir du moment où vous êtes tenu par la politique du chiffre, vous faites du chiffre et pas de l'efficacité à long terme. C'est la politique de la courte vue. Et juste une petite précision sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le 27 octobre 2005, les émeutes ne commencent pas pour protéger des points de deal ou parce que des points de deal sont tapés. Les émeutes commencent parce qu'il y a deux mômes qui sont pourchassés et qui s'électrocutent, et qu'on est en train d'enterrer l'enquête administrative pour chercher la responsabilité de la patrouille.
On m'a dit qu'il y avait deux qui s'étaient percutés.
Non, mais entre
je veux bien revenir à aujourd'hui.
On m'a dit des policiers de l'époque m'ont dit. Départ, je vous assure qu'il y a une marge.
C'est pas, on m'a dit, c'est des sources que je ne peux pas révéler, évidemment.
Je vous assure, je voudrais. C'est pas.
Mais sur la politique du chiffre, Sonia,
vous avez quand même, et entre ce qu'on a vu à Nice et ce qu'on voit à Marseille, c'est-à-dire ce sont des armes lourdes. Oui. Le préfet a parlé de Kalachnikov.
Je veux dire, ils étaient en train de marcher, de se balader tranquillement dans la rue, comme s'ils étaient dans leur jardin, dans le quartier, si vous connaissez.
Et vous rappelez à Grenoble, ville de Nice, à Grenoble, il y avait en plein après-midi, centre-ville, sur un scooter avec gilet pare-balles et Kalachnikov, quelqu'un qui s'est fait descendre par un policier parce qu'il visait un policier. Vous vous rappelez, c'est en la pleine après-midi, il devait être 15 ou 16 heures. Et d'ailleurs, il y a une plainte de la famille contre le policier pour tentative ou assassinat, je ne sais plus quel était ce qui était retenu. Bon, ce n'est pas nouveau. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. La nouveauté, plus vous avez trafic de drogue et plus ce chiffre d'affaires est en augmentation, plus vous avez besoin d'armes pour le générer et le défendre, ça s'appelle des armes de guerre. Et il y a du trafic d'armes de guerre qui vient par les Balkans. La nouveauté, c'est que ça sort des quartiers et que ça vient en centre-ville. C'est ça la nouveauté. Donc quand on parle des quartiers, des États dans les États, des quartiers sécessionnistes, on a 10 ans de retard. C'est fini, ça. C'est-à-dire, c'est acté et pour
donc
y aller.
Il n'y a plus aucun quartier, ni aucun.
Évidemment qu'il y en a. Il y a des quartiers qui ne sont pas des États dans les États, mais les États dans les États, c'est fait. Maintenant, ils veulent conquérir d'autres territoires. Et ils vont dans les centres-villes. Et vous voyez notamment à Nantes, ville de gauche comme par hasard, où je rappelle une émission de Jean-Marc Morandini qui filmait en direct des dealers problème,
Nice,
à la vue des caméras.
Nice, ville de droite,
avec la ville en France qui a le plus de caméras.
Christian Estrosi est droite, c'est nouveau.
Donc, en tout cas, il se revendique en tant que tel.
Il se revendique de tout, d'rien.
Ça cache les filles, mais je vais me renseigner. Donc, en attendant, avec des caméras.
Non, mais c'est pas une bataille politicienne, c'est que vous avez une idéologie derrière. Vous avez une idéologie.
Je réponds juste à Arthur qui dit.
Non, mais vous avez une idéologie. À Nantes, c'est ville ouverte.
Je crois pas qu'il ait la même logique politique, à ma connaissance, que la maire de Nantes. Il y a des caméras de vidéosurveillance.
Il y a pas de caméra à Nantes.
La plus importante de France, sauf erreur de ma part, pour 100 habitants. Il n'empêche qu'à la fin, malgré tous ces dispositifs-là, à la fin, il se retrouve avec des gens avec des armes de guerre à Nice.
Vous en avez partout. La question, après, c'est le nombre,
c'est pas un
le volume.
De gauche ou de droite,
si, parce que malheureusement, des villes de gauche.
Elle a envie aussi d'avoir la sécurité pour
ses citoyens. Elle n'a pas envie, la preuve.
Parce qu'elle a porté de base.
Nantes était la ville la plus agréable, elle était dans tous les classements. Depuis qu'elle est là, c'est devenu une guérilla. Et c'est devenu.
Parce que la logique du trafic de drogue.
Non, parce que vous avez une logique idéologique.
Christian Estrosi, il n'est pas sur. Même si je pars de ton point de vue, la logique idéologique de Christian Estrosi. Partons du principe qu'elle est différente de celle de la maire de Nantes. À l'arrivée, le résultat, c'est que
la
difficulté, c'est qu'aujourd'hui, derrière quelle que soit
la sécurité à Nantes, n'est pas la même.
Je rappelle que là-dessus, ils n'ont pas la main sur
la même politique sécuritaire. Philippe, entre la gauche et la droite, c'est pas la même politique.
Mais ce n'est pas vrai sur les élus. C'est faux, Sonia. C'est faux.
Vous n'avez pas la même
sécurité. Moi, j'étais maire, j'ai développé la municipale, j'ai armé la municipale, on a développé. Mais il y a plein de
choses. Il y a quand même
plein d'influences.
Et plein d'élus font ça.
Sur les vidéos,
font ça. Le maire de Montpellier,
sur les vidéos, c'est faux ce que vous dites. Sur les vidéos, ils n'ont pas le même avis. Arrêtez.
Le budget.
Les maires
de Lyon ne veulent pas mettre de vidéos, par exemple. Voilà.
Philippe, c'est résolu à l'histoire de la vidéosurveillance, c'est la police municipale. Voilà, c'est ça la réalité.
Non, mais réagissez.
J'attendais que vous me donniez la parole.
J'attendais le passage
de maison. Vous savez, comme dirait Darmanin, on est conditionné par ses origines. Alors, en réalité, vous n'avez pas la même politique municipale puisque ce ne sont pas les mêmes budgets, par exemple, comme vous le disiez, en matière de vidéosurveillance, puisque le terme de vidéoprotection est une escroquerie sémantique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Nice, par exemple, où on a démultiplié ce budget de vidéosurveillance, eh bien, ces jeunes gens déambulent et se filment avec des armes et personne n'intervient.
Or, apparemment, ce serait un habitant qui aurait.
On a vanté. Ah, mais ça change.
Je ne sais pas.
Ah, ben ça change.
Non, ça change rien.
C'est un habitant qui.
Non, mais vous avez dit que ce serait filmé. Non. Ce que je veux dire, c'est un habitant qui, anonymement, qui s'est caché pour
tout ce qu'il voulait apporter. Bien sûr que c'est un habitant. Non, mais très bien. Mais l'auteur de la vidéo, mais il y a aussi des caméras autour. Et on a vendu à ces habitants qu'en réalité, on installait ces caméras pour empêcher ce genre de scène. Eh bien, ça n'empêche à rien.
Alors d'ailleurs, là, on parle de Nice.
Est-ce qu'il y avait vraiment une caméra?
On va voir les images, justement, puisqu'on en parle à Nice. Mais non, on voit bien que
c'est filmé par un téléphone portable, pas par une caméra.
Oui, probablement quelqu'un qui est derrière.
Il y a une caméra ici.
Non. Ou alors le gars est vraiment stupide.
Mais même alors, quand il y a des caméras, il y a des lance-pierres, on balance des bombes de peinture dessus, on a rehaussé les caméras sur des.
On peut rien faire.
Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis, c'est que.
Peu importe qu'on fasse,
Non. Moi, je suis un volontariste absolu, Junie, c'est pas le cas. Je donne simplement la réalité des choses.
Rien ne change rien.
Non, c'est pas ce que je dis. Après, j'ai fait des propositions tout à l'heure et je continuerai à les faire. Le sujet. Oui, mais derrière, après, on peut se dire. Sur chaque plateau, on peut se redire. La réalité. C'est que on fait le profil intérieur, c'est qu'il y a une vidéo. Il n'y aurait pas une vidéo.
Écoutez-moi,
le jour d'après,
seconde.
Les gens
Philippe,
sont toujours là.
Philippe, les habitants, là, ils vous écoutent, ceux qui sont là derrière leur télévision et qui habitent là, dans ce quartier des Moulins. Vous croyez que quand vous leur dites légalisation, ils vont croire que dès demain, il ne va plus avoir les mêmes personnes qui se baladent tranquillement dans leur quartier avec des armes lourdes? Personne ne le croit.
Mais peut-être, mais n'empêche qu'à l'arrivée, personne, moi, je pense que c'est la solution. Et autrement. Je me suis retrouvé en position d'élu, où quand il y avait du trafic comme ça, on m'a demandé d'enlever des terrains de jeu pour enfants parce que le cannabis était planqué dans le toboggan.
Est-ce qu'on peut rappeler
c'est ça, la réalité
quel
aussi,
est
à un moment donné.
Le premier droit, finalement, des citoyens
à la sécurité, surtout pour les plus faibles.
Je peux parler aux autres. Vous me donnez le droit de parler aux autres invités du plateau.
Comme je suis pas dans la même classe sociale que mon voisin, je ne sais pas si je vais être aussi obéissant.
Est-ce qu'on l'a oublié, ce droit, Arthur de Vatrigan?
Non, on ne l'a pas oublié, mais malheureusement. Encore une fois, c'est toute une question de volonté politique. On ne pourra jamais, évidemment, avoir une sécurité zéro, sauf à vouloir un État ultra policier, ultra surveillé, ce que je ne souhaite pas. On ne pourra jamais, évidemment, enlever tout risque. Et voilà. Mais le problème là, c'est que ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter et ça arrive sur des territoires où ce n'était pas présent auparavant. Le problème, il est là. La nouveauté, elle est là. C'est que les trafiquants... n'hésitent pas à s'afficher, n'hésitent pas à faire leur marché. Je me rappelle quand on avait fait un reportage à Reims, sur un mur, il y avait écrit l'horaire du point de deal, les prix du point de deal, les prix dégressifs en fonction de ce que vous achetiez. Et si vous voulez quelque chose de plus, on vous donnait le numéro Telegram avec le point de rendez-vous. Et c'est affiché aux yeux de tout le monde. Bon, la nouveauté, elle est là. C'est que ce n'est plus caché. Ce n'est plus caché. Et ensuite... la manière de se défendre ou la manière de conquérir un territoire, parce que le problème c'est pas que les trafiquants qui vont taper la police ou empêcher la police de quand ils vont les gêner, c'est que d'autres trafiquants veulent récupérer aussi leur territoire. Et c'est généralement quand vous avez des kalachnikovs, vous avez des personnes avec des kalachnikovs et que vous avez des règlements de compte, c'est généralement pour ça. C'est des bandes qui veulent se disputer leur marché. Le problème c'est qu'à partir du moment où vous avez encore une fois 3 milliards de chiffre d'affaires, Philippe peut légaliser le cannabis. Le problème n'est pas la drogue, le problème pas le produit, le problème c'est le chiffre d'affaires. Ils le trouveront autre chose pour compenser. 3 milliards c'est énorme. Et à partir du moment où vous avez aussi des armes de guerre pour se défendre, ce que la police n'a pas, parce que la police face à une Kalachnikov.
Imaginons que je suis Arthur, c'est quoi tes solutions par rapport à ça? Parce que pour le moment, malgré les moyens engagés avec le.
Les moyens ne sont pas engagés, c'est pas vrai.
Derrière les moyens engagés, on continue, que Diogénie, on continue.
Mais les moyens ne sont pas engagés. Il y a tolérance zéro alors qu'il n'y en a pas.
Bien sûr que non, il n'y a pas de tolérance zéro, parce que la tolérance zéro, c'est quand la société n'accepte plus quelque chose. Aujourd'hui, quand vous avez la multiplication sur l'histoire des violences conjugales qui sont dénoncées, c'est parce qu'hier, il n'y avait pas de violences conjugales, c'est parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus acceptées. Aujourd'hui, si quelqu'un arrive devant, se met devant CNews et fume un pétard de hashish, vous n'avez pas appelé la police, ce n'est pas vrai.
On ne va pas appeler la police, la police ne viendra pas.
Vous mettez devant CNews avec un pétard,
vous
appelez la police.
Vous allez dénoncer, Sonia.
Non, mais s'il vous plaît, c'est un sujet sérieux parce que je vous assure, vous n'avez pas idée du nombre d'habitants, en tout cas, quand il y a des témoignages derrière ça. Et donc, on a l'impression qu'on discute du vide sur un plateau. Non, mais pas vous. Je parle de l'exécutif et des opposants, parfois, avec pas l'ombre d'une début de solution pour des gens qui vivent dans la terreur. Il n'y a pas d'autre mot. Imaginez que vous regardez ça depuis votre salon, votre chambre à coucher ou la chambre de votre enfant.
Bien sûr.
Imaginez depuis la chambre de votre enfant. Qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce que vous dites?
C'est pour ça que les gens déménagent.
Des années avec les mêmes images.
C'est pour ça que les gens déménagent. Il y a des résidences qui vivent mal et qui attrapent les élus locaux pour leur dire s'il vous plaît, monsieur le maire, déménagez-moi. Déménagez-moi. Voilà, moi, je me suis fait interpeller sur des bâtiments qu'on avait rénovés complètement du sol au plafond. Des mamans m'attrapaient le bras en me disant sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Parce que les dealers étaient dans le hall.
Je ne fais pas de lien avec le reste de l'actualité, mais malgré tout, tout cela intervient dans un contexte social qui reste tendu, avec un exécutif concentré encore sur la réforme des retraites et la contestation contre les réformes des retraites, même s'ils veulent, ils voudraient bien passer la séquence, comme on dit. Gauthier Lebret, vous êtes à Matignon. On a entendu tout à l'heure la Première ministre s'exprimer. Bon, alors, ces consultations, cette envie d'apaisement,
Mais après, pourquoi, au fond? Parce que personne n'est d'accord avec personne.
Des réunions pour rien, tout à fait, Sonia, surtout vu le poids politique de ceux qu'elle va recevoir aujourd'hui. Ça va commencer avec l'UDI, puis ça sera le Parti radical de gauche, et en fin de journée, le groupe Liot, vous vous en souvenez, qui avait déposé une motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Ce n'est pas faire offense à ces trois entités politiques que de dire que leur poids politique, justement, est très limité. Les Républicains, ça sera mercredi, et le Rassemblement national la semaine prochaine. Par contre, la NUPES boycotte les réunions avec Elisabeth Borne, pas d'Europe Écologie Les Verts, du PS. Ou des insoumis et des communistes, ils préfèrent faire un rassemblement, ça sera demain, devant l'Elysée, pour demander le retrait de la réforme des retraites au président de la République. La réunion qui va compter, vraisemblablement, ça sera évidemment celle de mercredi, avec l'intersyndicale, et la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, a déjà prévenu, si Elisabeth Borne ne retire pas sa réforme, elle partira, elle écourtera la réunion ici à Matignon, c'est ce qui va se passer, avec un objectif pour les syndicats, remobiliser pour leur manifestation, leur mobilisation du lendemain, ça sera jeudi.
Gauthier, on peut déjà, j'allais dire, présupposer de ce qui va se passer mercredi, parce qu'Elisabeth Borne n'aura pas changé d'avis, ni l'exécutif, ni Emmanuel Macron. Et la CGT, que ce soit Mme Binet ou ça aurait été M. Martinez, c'est non, non, non. Donc, réunion décisive, ça dépend.
Oui, c'est écrit à l'avance, effectivement. Oui, c'est absolument pas décisif, effectivement, puisque c'est écrit à l'avance. C'est-à-dire que les syndicats vont arriver, ils vont demander le retrait de la réforme, en tout cas pour la CGT, c'est ce qu'a dit Sophie Binet ce matin. Elisabeth Borne va refuser en essayant de les rattraper en leur proposant d'autres sujets, comme l'usure au travail. Mais il y a un coup politique à jouer pour les syndicats. On a vu qu'il y a eu un essoufflement lors de la dernière journée de mobilisation. Donc pour essayer de venir renforcer leur cortège, ils ont tout intérêt à quitter rapidement la réunion, à venir face à nous, face aux journalistes ici dans la cour de Matignon, pour dire que le gouvernement ne veut pas négocier et a appelé à la mobilisation le lendemain pour essayer de venir renforcer leur cortège et de voir un regain de la mobilisation comme après le 49-3.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Gauthier Lebret, en direct et en duplex depuis Matignon. Bon, est-ce qu'on pourrait appeler cela un grand théâtre? Parce que franchement, chacun sait ce qui va se passer. Ou alors on pourrait être démenti, on va voir. Tout le monde sait ce qui va se passer mercredi.
Oui, il y a quelque chose de presque religieux, une sorte de rituel. C'est comme une géniflexion.
Certains y tiennent.
On organise une consultation, comme on organiserait une sorte de messe, en espérant que... Mais effectivement, on sait que c'est écrit d'avance. On ne voit pas sur quoi le gouvernement pourrait céder. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'ils ont cédé énormément au début de la réforme pour ne plus rien avoir à céder après. Donc, dès le départ, en fait, ils se sont liés les mains. Et aujourd'hui, effectivement, on est en situation de blocage absolu. Je ne vois pas quel
l'exécutif attend juste le Conseil constitutionnel.
Le RIP.
Ça s'appelle la politique.
Pour occuper meubler le silence.
Attendez. Oui, vous y arrivez facilement, vous aussi, que si on ne l'avait pas fait, vous auriez dû regarder pas de dialogue.
Non, parce que
le dialogue, c'est mieux avant.
Mais attends, ce qui me fascine, c'est que tout le monde dit le gouvernement a fermé sa porte au syndicat pendant 4 mois, mais la réalité, c'est que s'il a fermé la porte au syndicat pendant 4 mois, c'est qu'il n'y avait rien à négocier et que c'est la même chose aujourd'hui. Donc,
aujourd'hui, la loi est passée.
Ils n'allaient pas recevoir les syndicats pour donner une fin de non-recevoir à leurs revendications.
Emmanuel Macron qui veut déjà.
Du Parlement. Mais pourquoi essayer un ultime coup de bluff avant l'arrêt du Conseil constitutionnel?
Pourquoi les syndicats
gagner du temps? S'il y a des choses à négocier, c'est celles qui ne sont pas décidées.
On va parler d'autre chose que des retraites, Monsieur Carbon, c'est ça.
Oui, mais ça,
ils vont obtenir autre chose. Le miel qui va venir après.
L'agenda est plié depuis longtemps qu'ils vont donner du sucre aux salariés.
Démobiliser les manifestations.
C'est pour ça que l'exécutif veut chasser, comme ils l'appellent eux-mêmes, cette séquence retraite pour parler d'autre chose. Mais alors, je ne sais pas.
Mais la manœuvre est un peu grossière.
Fin de vie, c'est l'un des sujets qui permettent véritablement à un exécutif d'avoir, si je puis dire, du souffle sans mauvais jeu de mots. C'est un débat sensible et compliqué. Une courte pause. On va en parler, mais sur la méthode. Il y a beaucoup de choses à dire sur la méthode, puisque Emmanuel Macron reste insondable. Ouais. On sait pas ce qu'il pense.
Bah, tant mieux pour une fois s'il affirme.
S'il pose la question, on sait ce qu'il pense.
C'est-à-dire?
Il est favorable au fait. Si vous ne posez pas la question, vous ne faites pas bouger le droit. Si vous posez la question, c'est pour faire bouger le droit.
Faut-il faire évoluer
le temps,
cette loi?
Je suis pas sûr que c'est intime de conviction.
La pause, à tout de suite. La suite du débat Midi News, mais tout d'abord les titres. C'est News Info, Audrey Berthaud.
9 interpellations ont eu lieu à Nice dans le quartier des Moulins. Une vidéo a été publiée hier par Éric Ciotti. On y voit plusieurs individus armés. 5 kilos de résine, 10 kilos de cannabis et 2,5 kilos de cocaïne ont également été saisis selon la préfecture. Sur Twitter, Éric Ciotti demande à Gérald Darmanin d'intervenir et d'engager tous les moyens disponibles pour reconquérir ce quartier. C'est la fin de l'intérim surpayé à l'hôpital. À partir d'aujourd'hui, le salaire des praticiens intérimaires sera strictement limité à 1390 euros la garde de 24 heures. En imposant cette limite, le ministre de la Santé entend mettre fin à l'intérim cannibale, au salaire parfois exorbitant. En effet, certaines gardes pouvaient monter jusqu'à 4000 euros. Et puis la Finlande va devenir le 31e membre de l'OTAN, annonce de son secrétaire général. Demain, nous accueillerons la Finlande, a-t-il dit, en précisant que le drapeau finlandais serait hissé en milieu d'après-midi au siège de l'Alliance à Bruxelles.
Que veut précisément Emmanuel Macron ? D'ailleurs, que veut-il en conscience sur un sujet qui nous interpelle tous ? Après les travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le président s'est exprimé. D'ailleurs, on peut le dire, vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui, Jeannie Basté, sur ce sujet directement. Oui. On va l'écouter, vous allez me dire si, de votre point de vue, il a évolué.
J'ai en la matière une opinion personnelle qui, comme celle de nombreux Français, peut évoluer, évolue, évoluera, qui le sait. Sur un tel sujet, j'ai aussi, en tant que président de la République, une responsabilité de concorde et une volonté d'apaisement. Cette expression de la Convention porte en elle une exigence et une attente, c'est celle d'un modèle français de la fin de vie.
Alors un modèle français de la fin de vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il a évolué lui ?
Alors, est-ce qu'il a évolué ? Moi, je ne sais pas. Pour en avoir un peu discuté avec lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas véritablement de conviction, en tout cas de vision, de vision du monde à ce sujet, qui s'incarnerait dans un oui ou non à l'euthanasie. Il est assez fluctuant et il parle de doute et il pense finalement que. Enfin, il voit beaucoup la question d'un point de vue technique. C'est-à-dire, il y a des cas particuliers, notamment la maladie de Charcot, c'est ce qu'il cite régulièrement et qu'il a cité lorsque j'ai eu cette conversation avec lui, qui pose problème. Il faut apporter une solution à ces gens-là. Donc, je trouve qu'il a un peu une vision très solutionniste. C'est-à-dire, on voit des cas particuliers et il faut y répondre. Parce que, voilà, un peu technocratique, je dirais. Mais en même temps, il n'a pas il n'est pas non plus dans une démarche ultra progressiste de gauche qui consisterait à dire il faut le faire à tout prix parce que c'est un principe. Je dirais que c'est une vision technicienne. Et donc, moi, je pense que rien n'est sûr. Est-ce que cette loi se fera? Est-ce qu'il y aura véritablement le suicide assisté ou l'euthanasie mis en œuvre en France en 2023? Je pense que rien n'est sûr, les choses peuvent évoluer. Et quand il parle de modèle français de la fin de vie, je pense que c'est très intéressant parce que l'argumentaire notamment de personnes progressistes à gauche consiste à dire regardez tous les autres pays du monde le font, donc il faut le faire aussi. Il y a aussi un certain nombre d'exemples alors que en réalité, une ultra minorité de pays au monde pratiquent l'euthanasie. Hein. Il y en a 5 ou 6 peut-être qui ont autorisé et légalisé l'euthanasie. Et donc, il faudrait s'aligner comme ça. Et je pense qu'on peut aussi défendre un modèle, le modèle par exemple des soins palliatifs, qui est unique au monde. Et c'est la France qui l'a développé dans les années 90 et qui inspire maintenant d'autres pays. Et ce modèle-là, il faut le défendre. Et si c'est ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron à travers cette allusion à un modèle français, si c'est le développement des soins palliatifs et de vouloir effectivement être une forme de rayonnement dans le monde, parce qu'on est les seuls à avoir mis en œuvre cette solution, je pense que ce serait une bonne chose.
On va aussi s'apesantir sur la méthode, c'est important, sur un tel sujet. Écoutons déjà ce qu'il peut advenir de la suite, comment le projet va être porté. Emmanuel Macron en a parlé.
Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité. Nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie.
Bon, c'est très... Sur la méthode de cette convention citoyenne, il a été beaucoup dit de choses, écrit également. Est-ce que ça vous paraît la moins pire des solutions, la moins pire des méthodes?
Non, ça me paraît être la pire des méthodes. Parce que c'est un simulacre de démocratie. Vous avez 184 citoyens qui sont tirés au sort par téléphone. C'est assez étonnant. Alors on nous dit, oui, les Grecs faisaient ça. Sauf que les Grecs, le tirage au sort a été remis dans les mains des dieux. J'ai pas l'impression que ce soit le cas, sauf si on n'est plus dans un pays laïque. Ensuite, vous avez donc 184 citoyens, qui oui. doivent répondre à une question fondamentale.
Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, par exemple, un référendum?
Le problème du référendum, c'est en fait on va retrouver avec la même situation que ce qu'on a eu pour cette commission. Parce que c'est 184 citoyens, on leur demande de prendre une décision fondamentale, c'est une décision sur anthropologique, qui peut changer beaucoup de choses, donc on les forme. On les forme à une vitesse grand V. Le problème, c'est que la manière dont ils ont été formés est questionnable. On leur donne une bibliographie. Dans cette bibliographie, vous avez 95% des bouquins qui sont des bouquins de personnes pro-euthanasie. On leur donne des films. Dans les films.
Les citoyens, ils peuvent aussi se
surtout, ils ne prennent aucune décision.
Ils ne prennent aucune décision.
Ils peuvent s'informer autre part que ce qu'on leur donne à manger.
Sauf que je dis simplement, sur la méthode de cette commission, ouais. Sonia, on leur donne une bibliographie pour qu'ils s'informent. 95% de ces livres sont pro-euthanasie. On leur donne des films. Sur les films, on leur donnait par exemple le dernier film de François Ozon, qui est un film assez amusant, ou en tout cas bien foutu pour vous convaincre de l'euthanasie. Par contre, on ne leur donne pas à voir le film Plan 75, sorti à la même époque. Dystopie japonaise qui montre comment un État qui va promouvoir l'euthanasie pour régler des problèmes financiers. On leur fait des tables rondes de pays étrangers sur ces tables rondes de pays étrangers. C'est un problème. Le problème
n'est pas lié aux travaux de cette convention.
Même. Alors à quoi elle sert?
Ah ben ça c'était autre chose.
À quoi elle sert?
Moi ce qui me fascine. Bravo.
Et vous avez, je rajoute juste deux choses dans les questions qui sont posées. Vous retrouvez les sondages. Je suis pas très fort en maths. Hein. J'ai quand même eu mon bac. Vous avez 50 chiffres différents. 50 chiffres différents. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont 66% pour l'euthanasie. Après, ils sont 70% pour. Ensuite, ils sont un peu moins contre. C'est-à-dire toute la méthode des sondages a été faite pour aller dans le même sens. La conclusion, c'est évidemment, on parle des soins palliatifs, mais on ne parlera pas de ça. C'est suicide assisté et euthanasie pour les mineurs aussi. C'est quand même ce qui a été rendu comme conclusion.
Les soins palliatifs sont très largement, visés dans le rapport.
Je dis qu'ils sont visés, mais ils vont être éteints par ça. Ils vont être, si je vous le dis, ils vont être. Et ensuite, ça a été hébergé par qui, la convention?
Mais il y a deux modèles, en fait, qui s'offrent à nous. C'est soit le modèle Belgique-Canada, qui est l'égalisation de l'euthanasie, soit le modèle Suisse-États-Unis, qui est le modèle du suicide assisté. Ce sont deux philosophies radicalement différentes. Puisque dans l'un des cas, on demande à l'État de procéder à l'acte létal à travers ses soignants. Donc on change véritablement la définition même de la médecine, puisqu'on fait de l'hôpital un lieu où on va administrer la mort. Et dans le deuxième cas, on délègue le suicide, enfin on assiste la personne, et ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes, parce que est-ce qu'on va réanimer les gens qui se sautent d'un pont tout en autorisant le suicide assisté? Enfin bon, ça pose un problème. Mais c'est deux philosophies différentes.
Imaginez.
Et d'ailleurs,
médical, politique, philosophique. Lisez le dernier livre tous les livres d'André Comte-Sponville.
Et donc c'est
le droit de.
Et la complexité.
Pas le droit de vivre, c'est le droit de mourir.
La complexité de la norme éthique, parce que l'éthique n'est pas qu'une question de conscience, elle devient une question de norme. Dans nos sociétés, et donc la mise en œuvre de la norme et les responsabilités qui en découlent. Tout ça est un énorme sujet avec les conflits d'intérêts internes. Je prends l'exemple de ce qui se passe actuellement. Vous avez des débats dans un service. Ce sont les anciens du service qui viennent comme tiers de confiance, qui sont les référents.
Service médical, oui.
Oui, pardonnez-moi. Mmh. Oui, services médicaux. Et par conséquent, ce sont des gens qui sont confrontés à deux choses. Une chose tout à fait consciente, c'est « suis-je là pour contredire mon jeune confrère ?» ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, quel est mon intérêt à apporter la contradiction puisque le prescripteur de mon intervention est le service qui me demande de confirmer son diagnostic. Mais oui, non, attendez, c'est fondamental. Et donc, si vous voulez, il y a toute une organisation qui est impossible.
Bien sûr, mais
en réalité, le sujet sur le tirage au sort des citoyens, il est bien en amont de tout ça.
C'est un sujet aussi miroir. Je veux dire, chacun face, il renvoie chacun à face à, j'allais dire. Ce qui fait le plus peur aussi, c'est ça.
Oui.
La fin de vie,
et de plus en plus
la
tabou.
Souffrance et ce qui est tabou avec la mort. J'aimerais savoir si Emmanuel Macron, quand il en a parlé, est-ce que c'est aussi un sujet qui ressent dans ses tripes? Je veux dire, lui aussi, c'est un être humain quand même. Écoutons-le, est-ce qu'il y a aussi cette pointe d'émotion quand on parle de ce genre de sujet?
Nous sommes tous par essence concernés par la fin de vie. Et nous savons d'expérience ou par oui dire ce qu'elle comporte toujours à la fois de douleurs irrémédiables, mais aussi trop souvent de chagrins évitables, ces autres drames qui s'ajoutent aux plus grands d'entre eux et ne font que l'amplifier cruellement. Je crois profondément que nous n'avons pas le choix entre une société où l'exigence de mourir dans la dignité est légitimement devenue commune et où l'insuffisance de l'offre de soins palliatifs est pointée, l'écart est devenu insupportable.
Bon, moi, je veux bien lui faire crédit sur un sujet de cette importance-là. Je
pars du principe qu'il est honnête intellectuellement, donc je lui fais crédit de ça. Derrière, je pense qu'il y a deux sujets. Je pense que, un, petite personne, il faut avoir la liberté de mourir dignement et pas se retrouver dans un certain nombre de cas qu'on a pu voir. Je suis plutôt sur la philosophie suisse, pour reprendre ce qu'évoquait les deux écarts, les deux cas qu'évoquait Génie à l'instant. Là, ce que je constate politiquement, c'est qu'il est extrêmement prudent. Parce que...
heureusement.
Donc, il est extrêmement prudent. Oui, mais on peut lui faire crédit que c'est pour des bonnes causes. On peut aussi lui faire crédit qu'il fait aussi un peu de politique et qu'il voit bien que, même si je pense que majoritairement la société française est pour que cette histoire d'euthanasie, de suicide assisté soit une nouvelle norme possible de liberté individuelle, il voit bien aussi que
c'est pas ça
qu'il veut construire.
C'est la mort, c'est pas ça. Moi, quand je pense à mourir...
Génie, c'est qu'il veut aussi... Il fait aussi attention dans l'étape politique qui va s'ouvrir pour lui dans les semaines et les mois qui viennent.
Moi, quand je pense à mourir dans la dignité, cette expression, vous savez à quoi je pense ?
Ça veut rien dire.
Moi, je pense aux gens qui sont morts seuls pendant la crise du Covid parce qu'on avait décrété un confinement absolu.
Et allons plus loin.
Et des gens sont morts sans revoir leurs proches.
Voilà, c'est ça.
Sans revoir leurs proches. Les proches qui n'ont même pas pu assister.
Donc, cette expression, on devrait la bannir.
Moi, on devrait la bannir parce que quand on a eu un État, quand on était à la tête d'un État qui a mis en œuvre ce genre de mesures. Et je dois reconnaître qu'Emmanuel Macron l'a reconnu, parce que dans la conversation que j'ai eue avec lui, il s'est sorti dans la presse ensuite, il a reconnu en disant « si j'ai un regret pendant la crise du Covid, c'est ça ». Mais bon, il n'empêche qu'il l'a fait.
On ne s'aperçoit pas de cela.
Il l'a fait,
et
ça, c'est pour moi. Et quand vous savez que 75% des Français meurent à l'hôpital, y compris en EHPAD, on ne meurt même pas en EHPAD, c'est-à-dire qu'on déplace les gens des EHPAD pour aller mourir dans les hôpitaux, il y a un vrai problème. Et pour moi, la question du suicide assisté, de l'euthanasie, c'est un petit pourcentage de cette question de la mort. Le vrai problème, c'est qu'on meurt de façon indigne, parce qu'on ne meurt pas chez soi, on meurt à l'hôpital.
On relègue la mort dans les EHPAD.
On relègue la mort, c'est ça le vrai problème. Et si ça peut servir à
la question de l'euthanasie.
Oui, parce que le problème, c'est... Que peut le politique sur ce...
sur cette question-là, encore une fois, c'est une question... Le problème, c'est qu'on va opposer, et on opposera euthanasie, suicide assisté aux soins palliatifs. Parce que les soins palliatifs, ça coûte un bras, qu'on n'a plus d'argent et qu'il faut le développer sur tout le territoire. Et qu'en ouvrant l'euthanasie, le suicide assisté, vous avez vu qu'il y a derrière le suicide assisté, l'euthanasie, il y a c'est le CESE qui a hébergé la commission. Qui est le patron du CESE? C'est l'ancien patron des fédérations des mutuelles. Et qui avait écrit une tribune il y a un an pour expliquer qu'il était pour l'euthanasie et que lui et ses mutuelles étaient prêts à accueillir les gens pour faire des essais. Que c'est sympa de la part des mutuelles d'aller flinguer des petits cancéreux en fin de vie. Évidemment, ça leur coûtera moins cher. Mais non, c'est pour le bien commun qu'ils font ça. Donc imaginez la puissance des mutuelles qui vous expliquent qu'ils sont prêts à organiser des endroits pour euthanasier des gens. Oh. C'est-à-dire, ça vous donne le niveau des, c'est ce qui était écrit. Le problème, il est là. Le problème, c'est que vous avez des intérêts financiers et que les soins palliatifs ça coûte un bras et que l'euthanasie en fait ça va coûter moins cher, voilà, c'est tout. Et ce qui va se passer, c'est pourquoi je parlais de la commission,
il sera à la marge derrière,
il sera pas à la marge, il va bouffer l'autre sujet, il va bouffer
aujourd'hui je pense que c'est à la marge. Si vous le légalisez, effectivement il y a un poids quand même de la loi est normative, donc si vous légalisez l'euthanasie, si vous donnez cette option, effectivement il y aura des gens qui seront en soins palliatifs qui se sentiront être des poids pour la société et qui pourront avoir la tentation de recourir à l'euthanasie. Donc on peut pas négliger cette
aspect
de
normalité. Ils se sentiront auxquels
on va renvoyer la perception qu'ils sont des poids. Non mais il faut imaginer quand même, c'est terrible, ça on ne peut pas l'accepter.
Moi je préférais honnêtement, pour une honnêteté intellectuelle, Eugénie, que tu dises... Moi, je suis, pour des raisons religieuses, philosophiques, contre l'euthanasie. C'est quelque chose, c'est une position qui peut s'entendre, qui est parfaitement respectable par rapport à ça. Je ne pense pas que décrédibiliser l'euthanasie en disant que ça va devenir un business pour pas développer les soins palliatifs, ça me paraît.
J'ai dit qu'il y a un poids de la norme.
Excessif par rapport à ça.
Moins cher que les soins palliatifs.
Derrière, pour le coup, je pense qu'on a besoin, notre sujet de la crise de l'hôpital, et je pense que quand les gens. Tout le monde a une pulsion de vie extrêmement puissante et heureusement, quand les gens arrivent à demander à partir en Suisse parce qu'ils font le choix de mourir parce qu'ils ont une maladie extrêmement compliquée dont ils savent que la conclusion est la mort ou parce que maladie de Charcot ou etc. Oui, donc il y a quelques cas. Ces gens-là font le choix, mais c'est à la marge. Mais
donc
derrière,
on fait une règle.
Ils vont en Suisse, ils vont en Belgique.
Donc vous faites une règle pour quelques personnes.
Donc vous savez ce qui va se passer?
Mais je fais une règle.
C'est une décision qui se prend.
C'est la vraie question. Est-ce qu'on légifère pour le particulier?
Même que tout ce qui est dit, c'est une rupture anthropologique. C'est-à-dire que si dans une société, vous faites une règle pour quelques personnes.
On peut dire que le mariage pour tous, c'est aussi une rupture anthropologique. On peut dire aussi que l'IVG est une rupture anthropologique. On peut dire aussi que la maîtrise de la fécondité des femmes est une rupture anthropologique. Mais c'est vrai.
Tout est vrai. Et après, vous avez des degrés d'importance de rupture anthropologique.
On est dans un débat aujourd'hui, Arthur, mais il y a 30 ans, on aurait dit que la pilule était une rupture anthropologique. Je suis sûr qu'on l'a dit.
Les débats sur l'IVG étaient
celui-là.
Donc, écoutez Carbon.
Au Canada, 10% des morts sont d'euthanasie.
Mais en réalité, la rupture anthropologique est un argument évidemment de poids, mais qui ne condamne pas le débat, parce qu'il y a des ruptures anthropologiques qui sont tout à fait intégrées dans la norme française et qui sont même digérées. En réalité, une rupture anthropologique par rapport à quoi? Car il y a des peuples qui ont recours à l'euthanasie depuis la plus haute antiquité, comme diraient les auteurs les plus célèbres. Je pense au peuple du Nord, qui envoie celui qui est devenu socialement inutile, trop malade, etc., voguer au large et finir ses jours. Mais oui, non mais attendez, et c'est souvent lui qui y va de lui-même et qui s'honore ce faisant. Non, ce que je veux dire, c'est que nous sommes français, nous venons avec nos conceptions françaises.
Non, on est d'abord humain.
Et donc chrétienne. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'anthropologie dont on parle, elle n'est pas partagée dans toute l'humanité. Le deuxième sujet, allez dans les peuples.
On va pas faire une loi pour l'euthanasie pour le monde, on parle d'une loi pour la France.
Soyons avec notre singularité.
C'est vous qui parlez d'anthropologie. L'anthropologie, elle ne se limite pas aux frontières de l'Hexagone. La deuxième chose, c'est l'argument qui consiste à dire l'État
mal agi. Pardonnez-moi, c'est que quand Eugénie Bastier a parlé de ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire on n'a pas mesuré encore les conséquences.
Est-ce qu'on a bien fait, Sonia?
Est-ce que je peux finir une phrase?
Non, on n'a pas bien fait. Non, on n'a pas bien fait. Non.
Clairement, on n'a pas bien fait.
On n'a clairement pas bien fait. On a paniqué. On n'a clairement pas bien fait. Et si c'était à refaire, il faudrait évidemment faire différemment.
Je suis d'accord.
C'était un scandale absolu.
Je suis entièrement
d'accord. Personne n'a jamais payé pour ce scandale.
Je suis d'accord avec vous. Entièrement d'accord. Simplement, j'attire votre attention sur un point. Et ce n'est que le point de vue du juriste. C'est que l'argument est totalement réversible. Précisément comme on a mal fait. On peut faire autrement. Et c'est ça qui autorise le débat aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Je vous rejoins sur ce que vous dites, sur le risque de calcul de bas étage sur le coût des soins palliatifs par rapport au coût d'une euthanasie. Vous avez tout à fait raison. Or, le poids des finances publiques en matière de débat, y compris éthique, n'est pas innocent.
Mais
hélas.
Attendez, ce n'est pas un débat de bas étage, c'est un fait.
Le débat de bas étage,
il y a des économies à faire si on choisit telle ou telle solution. C'est même admis dans le débat.
Oui, mais sur une question éthique, ça paraît un peu secondaire.
Dans un pays où vous n'avez pas laissé des gens accompagner jusqu'à leur dernière demeure des êtres chers, je pense que
dans un pays où vous avez mis sous cloche aussi le pays pour protéger
la loi. Le vrai sujet, c'est de savoir est-ce que la loi doit s'en mêler ou pas.
Surtout, le vrai sujet, c'est est-ce que la loi. La loi est condamnée sur ce sujet-là à évoluer perpétuellement pour s'adapter aux cas particuliers.
Parce qu'on ne pourrait pas déjà appliquer la loi qu'on a déjà.
C'est une mécanique sans fin, en réalité. Oui. Les comités d'éthique sont créés pour discuter dans 10 ans des choses qu'ils ont rejetées aujourd'hui. Oui. Donc là, si par exemple il y a une loi sur le suicide assisté et la fin de vie, on dira, bon ça, pour le moment, la société n'est pas prête, etc. Et dans 10 ans, on en rediscutera. Il y a une espèce d'évolution permanente. La bioéthique est un droit qui est conçu par essence comme fluctuant et devant s'adapter continuellement aux volontés individuelles. Et comme c'est ça le problème fondamental, à mon avis, et philosophique.
Je peux juste rajouter quelque chose sur la loi, et c'est pour ça qu'on parlait d'anthropologie, c'est que l'euthanasie, ça a toujours existé, évidemment. Ça a toujours existé. Sauf que ça se décidait en responsabilité, dans un endroit un peu feutré, en famille ou avec un médecin. Là, le problème, c'est qu'en mettant un tampon moral, qui est le tampon de l'État, par une loi, vous avez le seul truc que vous allez euthanasier, c'est la conscience. Il n'y aura plus de conscience sur ce sujet-là. Parce que ça sera
Dans l'exemple que tu évoques, Arthur, les médecins aujourd'hui, vu qu'ils sont obligés de se protéger, y compris judiciairement, aujourd'hui, ce qui pouvait se passer, comme tu dis, discrètement, n'existe plus parce que les médecins aujourd'hui se font.
Vous ne savez pas, personne.
L'euthanasie était pratiquée dans les hôpitaux français. Dans les années 80, l'euthanasie était pratiquée massivement dans les hôpitaux français et c'est les soins palliatifs qu'on a créés ensuite en réponse à ça. Exactement. Donc le progrès, il est peut-être dans l'autre sens, justement. C'est les soins palliatifs qui sont un progrès par rapport à l'euthanasie.
S'il vous plaît, je crois que c'est un. Alors, on verra ce que va donner ce projet. Alors d'ici la fin de l'été, ça va très vite. Donc il s'agit pour le président de la République d'arrêter son point de vue. Oui.
Je souhaite juste une chose, c'est que ce ne soit pas un moyen et un marqueur social, Emmanuel Macron, de donner des gages à la gauche après avoir fait la réforme des retraites, parce que ce serait vraiment triste et même inadmissible sur un sujet pareil. De l'utiliser comme un marqueur.
Vous pensez qu'il peut avoir de telles considérations politiciennes?
Je ne l'espère pas.
Je penserais plutôt considérations politiciennes inverses. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ça arrivera d'ici la fin de l'été.
Bon. On va parler tout à fait d'autre chose. C'est pour ça que je vais faire un sujet de transition avant d'y arriver. Tout à l'heure, on a écouté Elisabeth Borne sur la semaine décisive et de consultation. Et c'est vrai, parfois, parler. Mais sur quel support? Vous me voyez venir, c'est pour ça que j'essaie de faire une transition. Je ne vais pas revenir Emmanuel Macron sur PIF, mais ça dit beaucoup. Hein. Dites-moi où vous parlez, je vous dirai qui vous êtes. Marlène Schiappa a été défendue hier par le ministre de l'Intérieur à ce sujet, dont on voit la une de Playboy.
On attend de voir la une entière, parce que là...
Ah non, nous sommes très, vous voyez...
Elle est sortie de la une.
Oui, on va demander toute la une.
C'est très Figaro correct, là, on voit qu'un bout de la une.
et on va écouter ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à ce sujet, et plus largement, c'est-à-dire sur la communication, c'est ça qui nous intéresse, évidemment, de l'exécutif et du gouvernement.
Et quant à Marlène Schiappa, moi, je ne dis pas de mal, Marlène Schiappa, c'est une femme de caractère.
Est-ce bienvenu dans ce moment-là d'être dans ces supports-là?
Être une femme libérée, c'est pas si facile. Madame Schiappa a son style. Ouais. A son style. Je n'aurais pas posé.
Elle a trouvé que c'était inapproprié. Elle l'a dit.
Écoutez, personne n'a vu cette
interview.
Attendez, personne n'a vu. Moi, je vous dis que personne n'a vu cette interview. Moi, je ne l'ai pas lu, cette interview. Personne ne l'a vu. Donc, d'abord, on commande des choses qu'on n'a pas vues. Deuxièmement, Madame Schiappa a fait savoir qu'elle n'était pas, pardon de rentrer dans ce détail, nue. Dans ce magazine.
Donc, nous en écoutez, sommes là, monsieur le ministre.
Voilà. Donc, voilà. Bon,
écoutez.
Moi, je veux vous dire, je ne me ferai pas dire Marlène Schiappa, qui est une femme politique courageuse, qui a son caractère, qui a son style, qui n'est pas le mien, mais je le respecte. Et...
Femme libérée, c'est de
Cookie Dingler.
Non, Cookie Dingler. Mais enfin, vous ne connaissez pas vos fondamentaux.
Non, à l'évidence, non.
Non, mais.
Que des gens avec Goldman, c'est déjà les classiques.
Non.
Mais Cookie Dingler, il n'y en a fait qu'une.
Je voulais, quand il a dit femme libérée, je voulais chanter la suite. Peut-être pas, je me suis dit peut-être
non,
pas.
Non, c'est. On est un peu intrigué par.
Sans mots, tiens.
On est intrigué un peu par la communication erratique du gouvernement entre Olivier Dussopt dans Têtu, Emmanuel Macron dans Pif Gadget, Marlène Schiappa dans Playboy.
Peut-être que demain, bientôt, Philippe Bruno sera Le Maire dans Rustica.
Oui. Et voilà. Et la
est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec son affaire
d'argent? Peut-être de elle, donc.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Parce qu'on a quand même découvert son fonds de déradicalisation.
Mais arrêtez de voir des choses partout. Je vous pose une question sur la communication.
Vous voyez, on parle d'elle. Donc, elle, son opération est réussie. J'espère que ce qu'il y a dedans, l'interview, est intéressant. Pour elle, c'est une opération réussie. Pour le gouvernement, je pense pas que en soit une. Mais merci. Pour elle, on parle d'elle et même si on parle d'elle en mal, vaut toujours mieux qu'on parle de quelqu'un et qu'on prend mal.
Ah, c'est ça, vous.
Et la vieille loi de la communication. Donc, voilà. Donc,
d'avoir été nos invités. Merci.
Merci.
C'est un plaisir
Sonia.
De vous avoir autour de la table. À bientôt. Bon après-midi sur CNews, je l'espère. En tous les cas, vos émissions se poursuivent. À demain, à midi, avec grand plaisir.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.